Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, soyez les bienvenus dans Apolline Matin, nous sommes le jeudi 18 décembre. À la une de l'actualité ce matin, la suite de la colère agricole, les blocages d'autoroutes notamment se poursuivent ce matin un peu partout en France, 80 actions comptabilisées. On vous informe en temps réel sur RMC et puis on va s'intéresser ce matin aux conséquences de ces blocages. Les livraisons sont ralenties, notamment dans le sud-ouest, c'est ce que nous dira dans 10 minutes un des représentants des transporteurs routiers. Si les blocages ne sont pas levés d'ici demain soir, il nous le dira, c'est Noël qui est en péril. Vous êtes sur les routes, vous-même transporteur, livreur, appelez-nous pour témoigner au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Les agriculteurs vont debout aussi contre le Mercosur. Jusqu'à 3000 manifestants français qui sont attendus aujourd'hui à Bruxelles. C'est là que le traité de libre-échange est discuté. Emmanuel Macron promet de s'opposer au texte. Est-ce que ça suffira à repousser sa signature à 8h30 face à face avec Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, premier syndicat agricole, qui sera en direct de Bruxelles. Et puis ce matin, on va revenir sur ce piratage hallucinant du ministère de l'Intérieur. On vous expliquera tout. Le ministère de l'Intérieur qui a été hacké, ridiculisé. Sommes-nous encore en sécurité? Vous comprendrez tout à 7h40. Et puis on continue à vous couvrir de cadeaux. Aujourd'hui, pas un, mais deux cadeaux pour vous. C'est exceptionnel. On ouvrira deux cases. Vous jouez et vous gagnez d'ici 9h. Restez bien à l'écoute. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo. À 6h59, Géraldine. Beaucoup de douceur et de vent, par contre, aujourd'hui.
Oui, beaucoup de vent sur tout le pays. Et alors, en particulier sur le nord-ouest, avec cette perturbation qui arrive par la Bretagne, qui touche aussi les côtes de la Manche ce matin. Cet après-midi, c'est vraiment la Bretagne et le Cotentin qui seront sous des pluies parfois intenses, et avec des rafales de vent qui pourront atteindre les 100 km/h près des côtes. Le golfe du Lion également jusqu'aux Cévennes. Ce sera un temps gris avec des pluies faibles dans un premier temps. Elles vont s'intensifier dans les prochains jours. Et puis ailleurs, il y aura quand même du soleil, mais toujours ce vent bien présent. La douceur, oui, les températures sont encore en hausse. Il fera 12 à Lille cet après-midi, 14 à Paris, Lyon, on est largement au-dessus de la normale de saison, 16 à Bordeaux, Marseille, on devrait même atteindre les 20 degrés à Biarritz et Ajaccio.
Excellent réveil à tous, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le choc des habitants de Trévoux dans l'Ain après l'explosion d'un immeuble qui a tué deux enfants. Lundi, à l'origine du drame, le suicide d'une voisine qui a ouvert le gaz. RMC sur la route de Bruxelles ce matin avec les agriculteurs français opposés à la signature de l'accord avec les pays du Mercosur. La France va demander son report aujourd'hui au Conseil européen. Et Matvei Safonov, tsar devenu star, auteur de 4 arrêts au tir au but face au Brésilien de Flamengo. Le gardien parisien offre la Coupe Intercontinentale au PSG, 6e trophée de la saison.
L'émotion toujours très vive à Trévoux.
3 jours après l'explosion de cet immeuble qui a coûté la vie à 2 jeunes enfants de 3 et 5 ans, une 3e victime a été retrouvée hier dans les décombres. Une femme habitante au rez-de-chaussée du bâtiment, elle a volontairement ouvert le gaz afin de mettre fin à ses jours. L'annonce a suscité la sidération sur place. Vincent Chevalier.
À l'entrée du quartier, à seulement quelques pas de l'immeuble, des fleurs et des bougies déposées par les habitants, Bérangère est venue se recueillir avec ses deux enfants.
Sans savoir les raisons, l'incident nous a choqués, nous a émus et quand même touchés. On n'habite pas très loin. Il faut être vraiment désespéré. C'est vraiment dramatique pour les personnes qui ont trouvé la mort.
La nouvelle plonge les habitants du quartier dans l'incompréhension.
Quand je l'ai appris, je n'avais pas les mots, hein, franchement.
Bernard et sa fille, Sarah, n'arrivent pas à comprendre.
C'était inimaginable. On pensait à tout sauf à une tentative de suicide parce que pour nous, ça ne pouvait pas être volontaire.
Il y a peut-être d'autres moyens et surtout de ne pas mettre la vie d'autrui en danger comme ça. Cette personne n'a certainement pas réfléchi.
Enfin, pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi dans cet immeuble? Pourquoi de cette façon?
Chez d'autres habitants comme Nicolas, c'est surtout la colère qui prédomine.
Bah, je suis désolé des mots, mais c'est un peu égoïste de sa part. Il y a d'autres manières de suicider.
Hier soir, plusieurs centaines de personnes sont venues assister à une messe à l'église de Trévoux en mémoire des deux enfants décédés.
Une femme grièvement blessée par les forces de l'ordre hier soir à Toulon dans le quartier du Pont du Las, passagère d'un véhicule pris en chasse par les autorités après un refus d'obtempérer. Le conducteur alcoolisé a tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé. Un homme de 22 ans, toujours en garde à vue ce matin, soupçonné d'être à l'origine du piratage des serveurs du ministère de l'Intérieur. Confirmation hier de Laurent Nunez qui a qualifié de grave cet acte qui a mobilisé les autorités afin d'identifier et d'interpeller le suspect dans cette affaire sensible. Tout est allé très vite, Guillaume Bier.
Oui, il n'a fallu que 5 jours aux enquêteurs de l'Office anti-cybercriminalité pour retrouver la trace de ce suspect et l'interpeller. Un jeune homme de 22 ans, un pirate informatique bien connu de la police et même déjà condamné il y a quelques mois pour des faits similaires, précise le parquet de Paris. C'est donc lui qui est soupçonné d'avoir d'abord infiltré la messagerie d'un agent du ministère de l'Intérieur, puis récupéré des accès aux fichiers des forces de l'ordre, celui du traitement des antécédents judiciaires et celui des personnes recherchées. Pendant plusieurs jours, il a pu consulter environ 80 fiches, une à une, en faisant une recherche à chaque fois. Donc pas de fuite massive de données sensibles, mais une humiliation indéniable pour le ministère de l'Intérieur, qui depuis a renforcé ses procédures internes.
Un tueur en série ou innocent, la justice va trancher le sort de l'anesthésiste de Besançon. Ce matin, Frédéric Péchier soupçonné de 30 empoisonnements sur des patients, dont 12 mortels. 400 000 doses de vaccins contre la dermatose nodulaire sont arrivées à Toulouse, destinées aux bovins du sud-ouest où la mobilisation agricole se poursuit. 80 points de blocage étaient recensés hier. Une colère qui va s'étendre jusqu'à Bruxelles. Aujourd'hui, 2 à 3 000 agriculteurs français y sont attendus avec leurs collègues européens. Il n'est pas question là de dermatose, mais de l'accord entre l'Europe et les 4 pays du Mercosur, en direct d'un convoi en direction de la capitale belge ce matin. Amélie Courtet, vous êtes, Amélie, avec ces agriculteurs déterminés à rappeler leur opposition à la signature potentielle de cet accord.
Oui, très tôt ce matin, plusieurs convois d'agriculteurs du nord de la France se sont mis en route direction Bruxelles. Ils se sont tous réunis il y a à peine une heure à Bessin.
Amélie Courtet, qu'on retrouvera plus tard, bien évidemment, avec la colère de ces agriculteurs.
Et nous serons en direct de Bruxelles pour le face-à-face tout à l'heure. Mon invité, ce sera Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Est-ce qu'il peut encore faire plier l'Europe sur le Mercosur? Je lui poserai donc la question à 8h30.
Et justement, cet accord de libre-échange, il est redouté par les agriculteurs et ils sont soutenus, Hélène Terzian, dans ce combat par l'État.
Oui, dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron hausse le ton. Hier, le président prévient au Conseil des ministres que la France s'opposerait de manière très ferme à un éventuel passage en force de l'Union européenne sur le Mercosur. Quelques heures après, c'est son premier ministre, Sébastien Lecornu, qui en remet une couche face aux sénateurs.
Si la Commission européenne souhaite passer en force en cette fin de semaine et aller au vote, la France votera contre le traité du Mercosur.
Dans cette fronde, l'Italie rejoint la France. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, demande elle aussi des garanties suffisantes, de quoi espérer constituer cette fameuse minorité de blocage avec la Pologne et la Hongrie pour empêcher la signature du Mercosur. Aux grandes dames, des Allemands, des Espagnols, des Scandinaves qui comptent sur cet accord pour relancer la compétitivité européenne. Le chancelier allemand Friedrich Merz promet de faire pression intensivement sur ses partenaires européens pour conclure cet accord.
Et la gauche, unie à Paris contre Rachida Dati, accord historique. À 3 mois des municipales, socialistes, communistes et écologistes ont acté hier soir une candidature commune derrière Emmanuel Grégoire.
Et puis un titre de plus pour le PSG.
Il va falloir agrandir l'armoire à trophée du club de la capitale, vainqueur de la Coupe Intercontinentale hier soir face au Brésilien de Flamengo. 6e titre de la saison, du jamais vu pour un club français vainqueur au tir au but grâce à un homme, Matvei Safonov, gardien parisien, auteur de 4 arrêts hier soir, Jean-Louis Tour.
Oui, c'est le héros inattendu de la soirée. Il faut dire que jusqu'à hier, on parlait surtout du russe Matvei Safonov pour sa cohabitation dans le vestiaire avec l'ukrainien Ilya Zabarny. Et désormais, on évoquera davantage ses qualités décisives. Hier, ses coéquipiers lui ont rendu hommage dans le vestiaire, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery.
On a dit merci. C'était un bon match pour lui. Et on est content pour lui et pour l'équipe aussi.
On est très content de lui. Il était prêt. Il attendait son moment. Il a appris vite le français. Il est toujours à l'écoute. Franchement, il est là pour le collectif.
Très apprécié de ses partenaires, donc le gardien a fait basculer la séance de tir au but en étant presque infranchissable avec ses 4 arrêts. Son entraîneur, Luis Enrique.
Au tir au but, c'est la première fois que je vois un gardien qui ferme 4 tirs au but. Tu penses que c'est le moment de parler sur ça?
Ça, c'est la question de la hiérarchie entre Safonov et Lucas Chevalier, dont l'entraîneur n'a pas voulu parler hier. Ce sera un dossier à traiter, car le Français, recruté cet été pour être numéro 1, s'est assis sur le banc pour la 2e fois de suite hier soir.
Et à voir s'il sera dans les cages dimanche pour la Coupe de France. Dernier match de l'année face à Vendée-Fontenay, club de 5e division. La Coupe de France à vivre bien évidemment tout ce week-end sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h07, on part au 32-16. Et vous nous alertez sur la difficulté à trouver des rendez-vous de dermatos, les dermatos qui manquent terriblement en France, Mathieu.
Oui, oui, il y en a 3000 en France concrètement. 30% de moins d'ici 2030, c'est l'alerte qui nous dresse concrètement. C'est-à-dire qu'on va perdre 1000 dermatos qui vont partir à la retraite, etc. Et on a des témoignages de rendez-vous ce matin, jusqu'à un an et demi d'attente pour le coup, et 4 départements français où il y en a carrément pas du tout.
Jean-Jacques est médecin généraliste. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Vous nous appelez de Libourne. Merci de votre témoignage ce matin. Vous-même, j'imagine que vous voyez certains de vos patients où vous vous dites il faut que je l'envoie chez un dermato, sauf que vous n'êtes jamais sûr qu'ils vont y arriver.
Alors, effectivement, l'accès direct est devenu très compliqué maintenant et depuis quelques années maintenant. Mais en fait, on a quand même des systèmes aujourd'hui pour ce qu'on estime être une urgence. Okay. En fait, avant, en fait, c'était très simple. Le patient, dès qu'il avait une envie, entre guillemets, ou un besoin de dermato, il y allait directement. Un doute, c'était un petit peu comme ça. L'accès aux spécialistes était quasiment automatique. Ouais. Alors que maintenant, en fait, la demande, c'est on passe par médecin généraliste. Nous, on fait un pré-tri. C'est-à-dire, on regarde, on discute un petit peu de la lésion. Si on peut la prendre en charge, ben, on la prend en charge. Si on estime qu'il y a un doute, on fait des photos. On a des outils avec des dermatoscopes qui permettent de faire des photos très précises. Et en fait, on a des interfaces de télé-expertise qui nous permettent d'envoyer les éléments au dermatologue qui nous donne une conduite à tenir ou alors qui convoque le patient en urgence. Et on peut avoir des rendez-vous qu'on estime urgents très rapidement quand même grâce à ce système.
Ah, c'est super, c'est important que vous nous le disiez. C'est-à-dire qu'en fait, on se trompe si on se contente de se dire qu'on n'y arrive pas parce qu'on essaye, je sais pas, sur Doctolib ou même en téléphonant, d'avoir un rendez-vous directement avec le dermato. Si on a un doute, on va voir son médecin traitant.
Il faut passer par le médecin généraliste. Mais malheureusement, maintenant, tout le système de santé passe comme ça. Il faut absolument passer par nous. Alors effectivement, nous, on devient des dermatos, des ORL, des rhumatos.
C'est un peu ce qui fait aussi que désormais, vous-même, vous êtes totalement débordé.
Exactement. Et avec tout ce qui va se passer avec le PLFSS et compagnie, ça va être de pire en pire. Il faut malheureusement que les gens se préparent à ça. Il y a moins de généralistes, il y a aussi beaucoup moins de spécialistes, puisqu'il y a moins de médecins en France. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et ce que l'État prépare ne va pas améliorer les choses.
Alors, c'est pas très rassurant ce que vous nous dites, Jean-Jacques. Mais cela dit, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, vous nous dites, ne nous décourageons pas en ne trouvant pas immédiatement de rendez-vous chez le dermato. Appelons aussi notre médecin généraliste pour passer par lui. Merci, Jean-Jacques. En tout cas, d'avoir témoigné, Jean-Jacques, médecin, auditeur d'RMC. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Menace sur les fêtes. Si les blocages des agriculteurs ne sont pas levés, vous n'aurez peut-être pas tous vos produits pour Noël et le réveillon. C'est votre alerte ce matin. Thibaut Izaret, bonjour. Vous représentez les transporteurs en Nouvelle-Aquitaine et à moins d'une semaine de Noël, ça commence à être très très tendu et vous êtes inquiet, vous nous le dites dans un instant. Vous-même qui nous écoutez, vous êtes peut-être transporteur, livreur sur les routes ce matin. Appelez-nous pour témoigner au 32-16.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Huîtres, chapons, foie gras, saumon. Si les blocages des agriculteurs se poursuivent, vous n'aurez peut-être pas les produits que vous souhaitiez avoir pour les fêtes. Bonjour Thibaut Izaret. Vous êtes le représentant des transporteurs en Nouvelle-Aquitaine. 80 blocages comptabilisés ce matin de routes, d'autoroutes, avec un pic dans le sud-ouest. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est aussi les conséquences, parce que ça commence à avoir des conséquences pour les transports. Écoute. Je vous écoute.
Oui, pardon, je n'ai pas entendu. Il commence à avoir des conséquences. En fait, depuis 4 jours maintenant, on va attaquer la 4e journée de blocage et nous commençons à cumuler des retards. Donc, qui sont pas dramatiques. Aujourd'hui, on va faire des tournées plus longues et on va cumuler du retard, ce qui entraîne du surstockage dans nos entrepôts pour les colis, par exemple.
Ouais.
Mais bon an, mal an, on arrive à passer, mais on est inquiet si ce mouvement perdure longtemps, parce que les accès aux zones logistiques et les accès de distribution sont de plus en plus compliqués, on met de plus en plus de temps. Et
c'est quoi c'est à chaque fois 2-3 heures que vous devez compter en plus, ça se compte en heures.
Exactement, c'est en heures, voilà, c'est des tournées qui doivent mettre 8 heures qui vont mettre 10 ou 11 heures, c'est des camions qui vont être bloqués, qui vont empêcher la prise d'un nouveau poste derrière, c'est des rechargements qu'on peut pas refaire parce qu'on a eu pris trop de retard. Voilà, donc toutes ces choses-là se cumulent et entraînent une désorganisation totale, des plannings à refaire en permanence, des conditions de sécurité qui sont pas bonnes non plus parce qu'on est obligé d'emprunter le réseau secondaire. les chauffeurs sont obligés de d'être bloqués dans des endroits où il n'y a pas d'accès à l'hygiène, aux douches,
parce qu'ils peuvent pas être à l'endroit où d'habitude ils sont. Et ils sont nombreux d'ailleurs, les transporteurs, à témoigner. Hein, Mathieu.
Oui, on a beaucoup de messages de gens qui se sont retrouvés bloqués. Hervé nous dit, je suis chauffeur en convoi exceptionnel. Hier, j'ai mis 15 heures pour faire un trajet de 5 heures. Merci les agriculteurs d'empêcher les autres de travailler. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer chez moi vendredi soir. Justin nous dit, je suis chauffeur routier. Depuis hier, j'étais directement impacté par les blocages. A89 bloqué à côté de Périgueux aujourd'hui en Charente-Maritime. Oui, ça impacte les livraisons. Oui, on prend du retard pour l'instant. Personnellement, j'arrive encore à livrer, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Est-ce que vous, Thibaut Isaret, vous êtes inquiet sur l'alimentaire en particulier et vous appelez à lever les blocages?
Oui, alors clairement, j'appelle à lever les blocages. J'appelle les agriculteurs à revenir autour de la table auprès du gouvernement sans bloquer les routes et de trouver des solutions pendant la trêve, on va dire. J'espère qu'il y aura une trêve de Noël. Pour qu'on, dès demain, ça va être les départs en vacances, on va mettre encore plus de voitures sur les routes. Et donc, il est grand temps qu'on puisse travailler sereinement et passer le pic alimentaire de Noël.
Parce que là, il y a urgence. À quelques jours de Noël, c'est le moment où il y a le plus de transports, à la fois alimentaire, mais aussi tous les colis.
Clairement, on est sur le pic alimentaire et le pic de colis de l'année. Sur ce week-end-là, juste avant Noël, c'est le plus gros pic de l'année pour la grande distribution. C'est le plus gros pic de l'année pour tout ce qui est colis. Donc, il est grand temps qu'on ne cumule plus de retard et qu'on puisse travailler sereinement et que tout le monde puisse passer un Noël tranquille.
Qu'on puisse effectivement être serein. Aurélie nous appelle, elle, au 32-16 depuis la Haute-Savoie. Bonjour Aurélie.
Bonjour Apolline, merci de me recevoir.
Mais de rien, on trouve que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Vous êtes plutôt dans le soutien aux agriculteurs, y compris lorsque vous entendez à l'instant, Aurélie, que les transports, ça commence à avoir des conséquences quand même très compliquées pour d'autres professions.
100% derrière nos agriculteurs. Sans eux, on n'est rien. Sans eux, on ne mange pas. On leur impose des normes qui sont disproportionnées alors qu'on laisse rentrer dans notre pays des produits qui respectent zéro de nos normes. C'est triste pour les transporteurs, mais à un moment donné, tout le monde s'inquiète pour Noël. On parle de la vie des milliers de paysans qu'on a en France. Combien de suicides par jour? C'est pas possible, faut être derrière eux. Ils peuvent bloquer le pays pendant des semaines. Moi, en tout cas, ils auront tout mon soutien. Sans eux, on n'est rien. Faut pas l'oublier, hein. La viande, elle s'achète pas en supermarché. C'est pas un supermarché qui produit de la viande. C'est nos agriculteurs qui se lèvent à 5h du matin et qui se couchent à 22h, qui ont des mains plus qu'abîmées. Franchement, 1000% de soutien avec eux, qui continuent à tout bloquer. On est derrière eux.
Vous êtes derrière eux, quoi qu'il arrive. Alors, je précise qu'évidemment, il faut quand même qu'à un moment, cette viande soit transportée pour qu'on puisse aussi la manger. Vous bossez dans quel secteur, Aurélie?
Moi, je suis dans le chauffage et l'eau chaude. Et franchement, j'invite les transporteurs à rejoindre nos agriculteurs. Parce que le métier de transporteur, on sait très bien qu'il a eu du mal à cause des pays étrangers dans l'Europe. Donc franchement, les transporteurs, soutenez nos agriculteurs.
Pour vous, le problème, Aurélie, c'est le Mercosur. C'est ça qui se joue d'ailleurs aujourd'hui.
C'est le Mercosur. C'est l'ouverture de toutes nos frontières et qu'on laisse tout rentrer. C'est la destruction interne de notre pays. Nos gouvernements, ils ont détruit notre pays sur des années. Je ne dis pas que c'est que Macron, c'est tout le monde.
Non, la question de la concurrence déloyale. C'est-à-dire, quand vous évoquiez la question des normes, c'est un des points, évidemment, sur lesquels on sent un vrai malaise agricole, même si là, ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était aussi la question de la dermatose. Aurélie, restez avec nous. Thibaut Isaret, quand vous entendez ce point, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Aurélie?
Alors, première chose, je réponds qu'on n'est pas contre le mouvement des agriculteurs et on soutient les agriculteurs dans leurs problématiques. Ça n'est vraiment pas le sujet discuté. Aujourd'hui, c'est qu'on veut pas que ça devienne contre-productif pour eux aussi de garder... je vais faire un parallèle. Quand il y a des grèves à la SNCF au moment de Noël et que ça bloque le pays, c'est pas très populaire. Et je suis pas sûr qu'on arrive à un moment où ça va devenir populaire si les gens ne peuvent pas se déplacer. Et s'ils n'arrivent pas à trouver leurs produits.
Et les colis et les cadeaux de Noël qui arrivent à temps. Et simplement aussi le fait de prendre la route, puisqu'on sait que c'est des moments où les gens retournent beaucoup en famille. Et c'est les vacances, vous le disiez effectivement, demain soir. Merci Thibaut Isaret, donc représentant des transporteurs en Nouvelle-Aquitaine. Et merci aussi à Aurélie pour son témoignage. Aurélie qui nous appelait de Haute-Savoie. Il est 7h19. Et Arthur Chevalier est entré dans ce studio.
Apolline Matin.
Arthur est là, et dans un instant, Arthur, vous allez nous parler d'Emmanuel Macron qui a dénoncé les fake news avec un nouvel exemple, une vidéo réalisée en intelligence artificielle qui annonçait un coup d'État en France. Et malheureusement, les fausses nouvelles, c'est pas tout à fait nouveau, Arthur.
Et oui, hein, des rumeurs de complots juifs et de francs-maçons à Hillary Clinton
qui serait à la tête d'un réseau pédophile. Les fausses nouvelles façonnent aussi notre histoire.
Il y aura Arnaud Demange qui sera là aussi dans un instant pour pirater le face-à-face. On se retrouve dans 30 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'histoire éclaire notre actualité, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Emmanuel Macron continue d'alerter sur les fake news. Au moment d'un débat avec les lecteurs du journal La Provence, le président de la République a révélé une anecdote assez surprenante. Un chef d'État africain lui a téléphoné parce qu'il était convaincu qu'un coup d'État militaire était en cours à Paris.
Oui, vous ne rêvez pas. Ce chef d'État avait vu une vidéo générée par une IA. Une vidéo où on voit une journaliste devant la Tour Eiffel en train d'expliquer, micro à la main, qu'un colonel a pris le pouvoir à Paris. Cette vidéo est devenue complètement virale. Donc Emmanuel Macron a personnellement demandé à Facebook de la retirer, ce que Facebook a refusé.
Facebook a refusé, alors cette histoire est quand même dingue. Est-ce qu'on est condamné à vivre désormais avec des fausses informations?
En réalité, on vit déjà avec des fausses informations depuis très longtemps, hein, et les conséquences ont déjà été gravissimes. Au début du XXe siècle, on publie un livre au titre étrange qui s'appelait « Les protocoles des sages de Sion ». Alors on y racontait absolument n'importe quoi, hein, que les juifs complotent avec les francs-maçons pour conquérir le monde. Un tissu d'ânerie écrit en réalité par les services secrets russes, mais ça devient quand même un best-seller et aussi la bible de tous les antisémites, à commencer par Adolf Hitler qui n'arrêtait pas de le citer.
Et parfois, les fausses informations touchent des personnalités dans leur intimité. Hein.
Et l'actrice Isabelle Adjani le sait mieux que personne. Hein. Dans les années 1980, une rumeur complètement folle circule. La comédienne serait atteinte du sida. En phase terminale pour certains, pour d'autres, elle serait même déjà morte. Ça prend une telle ampleur qu'Adjani vient en personne au journal de 20h pour démentir et dire en fait qu'elle est vivante. Et le plus fou, c'est que le pourcentage de gens convaincus par cette fausse nouvelle était quasiment le même avant et après l'interview.
C'est-à-dire que même quand on la voyait vivante...
Exactement. Les gens continuaient à croire que c'était faux.
Les Américains ne sont pas mauvais non plus en matière de fausses informations. Hein.
Oui, et chez eux, c'est même le gouvernement qui s'occupe de tout. Comme ça, on est tranquille. En 1990, devant une commission du Congrès américain, une infirmière koweïtienne raconte que des soldats irakiens ont enlevé des bébés dans des couveuses dans une maternité. Évidemment, un témoignage glaçant et horrible qui émeut l'Amérique. Un témoignage aussi bien utile pour légitimer l'invasion américaine de l'Irak de Saddam Hussein qui était en cours à l'époque. Sauf que, on apprendra que c'était en fait une fausse information montée par la CIA avec un but, mobiliser l'opinion en faveur de la guerre.
Et alors, il y a eu le Pizzagate.
Alors ça, c'est une des premières grosses fake news portées par les réseaux sociaux. Nous sommes en 2016, Donald Trump et Hillary Clinton s'affrontent pour la présidentielle américaine. Et là, surgit une histoire absolument délirante. Hillary Clinton et son directeur de campagne seraient à la tête d'un réseau pédophile. Et le QG de ce réseau, ça serait une pizzeria dans la ville de Washington. Alors l'affaire prend de l'ampleur. Un homme va même se rendre dans la pizzeria en question avec un fusil pour libérer les enfants victimes de ces prétendus pédophiles. On est passé donc à deux doigts du drame. Hein. Et alors attention, les statistiques, 46% des électeurs de Trump croyaient à l'existence de cette fausse information. Et plus grave, un électeur démocrate, donc de Clinton, sur 5, avait de sérieux doutes. Donc vous voyez, Apolline, personne n'est protégé des fausses informations.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là, pour avoir des médias en lesquels on peut avoir confiance, qui vérifient l'information et qui travaillent. Et c'est notre travail chaque jour. Il est 7h24 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
C'est vrai la pizzeria. Hein.
C'est
vrai, on a des doutes.
Arnaud, invité tout à l'heure sur BFM TV et RMC, c'est un autre Arnaud.
Oui.
C'est Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Les vaches rousses
blanches et noires,
et qu'il faut buter, car il y a une épidémie, une mare avec des canards qu'il faut tous buter aussi, tous ensemble. Allez. C'est la chanson du moment au ministère de l'Agriculture et ça ne fait pas plaisir à Arnaud Rousseau. Alors vous avez vu, tiens, Sébastien Lecornu veut faire appel aux vétérinaires de l'armée pour vacciner les vaches. Je ne savais pas qu'on avait des vétérinaires à l'armée, encore moins spécialistes des vaches. Peut-être qu'on a des vaches de combat et qu'on le sait pas. En fait, on leur met un explosif dans les mamelles, télécommandé, on les envoie brouter à Bakhmout pour tromper les soldats russes. Ils se méfient pas. Et dès qu'elles s'approchent d'un tank de Poutine...
Oh là là,
c'est,
là,
c'est,
là,
c'est,
là,
c'est,
là,
c'est
son et lumière.
Ouais. Et c'est bien joué, Marguerite. On n'oubliera pas ton sacrifice. En plus, ça fait des steaks gratuits pour les Ukrainiens.
Arnaud Rougeron sera en direct de Bruxelles, où il manifeste aujourd'hui contre le traité sur le Mercosur qui doit être signé là, pour créer un grand espace de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Le problème étant que les normes ne sont pas les mêmes là-bas et chez nous. Nous, vous savez, nos éleveurs, ils doivent nourrir leurs animaux avec du fourrage bio-équitable en leur faisant écouter du Mozart, en leur massant la couenne, avant de les emmener dans des abattoirs conçus par Philippe Stark. Alors qu'au Brésil, ils nourrissent leurs vaches avec de la farine de cheval mort, elles boivent du liquide de prothèse mammaire périmée, et ils tronçonnent les steaks dedans alors qu'elles sont encore vivantes. C'est pas du tout la même chose. J'ai réussi à me procurer un enregistrement d'un abattoir brésilien.
Non.
Décidément, elle souffre aujourd'hui, la vache de la région. Alors qu'Emmanuel Macron est contre la signature de ce traité, je suis sûr qu'il manifeste avec les agriculteurs en cachette, notre président. Il est avec une casquette à carreaux, une salopette et une fausse moustache. Mais non au Mercosur ! Non au Mercosur ! Il va grimper sur un tracteur. Les gars ! Crévin Dieu ! Allez, on va balancer du purin sur la présidente de la commission. On va lui refaire le brushing au lisier de porc à Ursula von der Leyen. À cette sale conne ! Crénon, Brigitte ! Taillot, sale morue ! Les agriculteurs, ils sont là. Waouh, il est vénère, Patrick Juvet. Donc on se retrouve avec le Rousseau. Non, Sébastien Le Rousseau, pas La Rousseau. Il est temps que les vacances arrivent à la Régisson. Rendez-vous avec Arnaud Rousseau à 8h30. À tout à l'heure.
Me demande en roue libre cette semaine. On le retrouve à 8h20, ça promet. Il est 7h27. C'est un tel délire. Je me réveille maintenant le matin et j'entends « It's time ». C'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de vous couvrir de cadeaux et c'est une journée exceptionnelle sur RMC parce qu'aujourd'hui vous allez remporter la case du jour où se cachent des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5, des Switch 2 avec micromagnésing et attention surprise, on pourra ouvrir une seconde case, il y aura donc deux fois plus de cadeaux grâce à RMC. Pour jouer, vous envoyez tout de suite Noël au 732-16, Noël au 732-16 et le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et juste après le journal, on va revenir sur cette fuite de données au ministère de l'Intérieur. C'est absolument hallucinant. Le ministère de l'Intérieur qui a été hacké. Sommes-nous encore en sécurité ? Réponse à 7h40 dans 10 minutes. À tout de suite. 7h29 et ça souffle, Géraldine.
Beaucoup de vent, oui, sur tout le pays. Alors, en particulier sur la Bretagne, parce qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive, qui donne beaucoup de pluie sur la Bretagne, sur les côtes de la Manche aussi ce matin. Cet après-midi, ça va vraiment se cantonner à la Bretagne et au Cotentin, avec des rafales qui pourront quand même atteindre les 100 km/h. On a le golfe du Lion aussi jusqu'au Cévennes, où ça va être un temps gris, avec des pluies faibles pour l'instant. Elles vont s'intensifier dans les prochains jours. Puis partout ailleurs, il y aura quand même pas mal de soleil et de la douceur toujours, avec des températures en hausse encore. Il fera 12 à Lille cet après-midi, 13 à Brest, 14 à Paris, Lyon, Nantes, 15 à Bourges ou Clermont-Ferrand, 16 à Bordeaux, Marseille, Perpignan, jusqu'à 20 pour Biarritz et Ajaccio.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des dermatologues de moins en moins nombreux en France, à peine 3000 au total sur tout le territoire et peut-être 30% de moins d'ici 5 ans, alerte un collectif de médecins. La police tire sur une voiture à Toulon lors d'un refus d'obtempérer, la passagère grièvement blessée. Le conducteur a été interpellé. Et puis alors que l'Union européenne doit valider l'accord commercial avec le Mercosur, la grande distribution promet de soutenir les agriculteurs français.
La France fait face à une pénurie de dermatologues, l'alerte d'un collectif de médecins ce matin.
Il faut parfois attendre plus d'un an avant un rendez-vous pour des problèmes de peau. Certains patients sont même contraints de faire plusieurs heures de route pour une consultation. Dans 4 départements, il n'y a aucun dermatologue. Dans l'Indre, la Nièvre, la Lozère et l'Ariège. Au total, en France, ils sont moins de 3000 et la situation s'aggrave. Ils seront 30% de moins en 2030 selon ce collectif de dermatologues, Solène Leroux, collectif qui veut alerter les autorités. C'est une urgence sanitaire, s'indigne ce collectif de dermatologues, un peu plus de 3 praticiens pour 100 000 habitants. Ça a des conséquences très concrètes que vous avez sans doute déjà subies. Il faut souvent 4 à 6 mois pour obtenir un rendez-vous, parfois plus, ce qui peut mener à des diagnostics tardifs. D'autant plus inquiétant que les cancers de la peau sont de plus en plus fréquents. Marion Vincent, dermatologue et cofondatrice de la pétition.
Certains vont abandonner en fait, le fait de vouloir aller chez le dermatologue et ils n'y vont pas du tout parfois. Et les patients n'ont pas accès aux soins. Correctement, ça met en danger les patients que le gouvernement ne veuille pas augmenter le nombre de postes internes.
C'est la demande principale du collectif, augmenter le nombre de places en dermatologie. Cette année, ils sont 102 étudiants dans cette spécialité. Selon les professionnels, il faudrait qu'ils soient au moins 125 chaque année, rien que pour compenser les départs à la retraite.
Des tirs hier soir à Toulon, dans le Var, dans le quartier du Pont du Las. Des policiers ont ouvert le feu après un refus d'obtempérer sur une voiture qui ne s'est pas arrêtée pour un contrôle routier. Une passagère grièvement blessée et Alfred Orange, le conducteur, a finalement été interpellé.
Il est 19h15 lorsque des policiers tentent d'interpeller le conducteur et ouvrent le feu, comme on l'entend sur cette vidéo prise par un témoin de la scène. Un agent aurait alors été renversé par la voiture en fuite. Prise en chasse, le véhicule est retrouvé 500 mètres plus loin, avec à son bord la passagère grièvement touchée au cou. Le conducteur, lui, réussit brièvement à prendre la fuite à pied avant d'être interpellé et placé en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme était alcoolisé. De leur côté, les deux policiers qui ont ouvert le feu ont aussi été placés en garde à vue hier soir afin d'être entendus sur les circonstances de l'usage de leur arme.
Explication d'Alfred Orange pour RMC. C'est un suicide qui est à l'origine de l'explosion mortelle lundi d'un immeuble de Trévoux dans l'Ain, indique le parquet de Bourg-en-Bresse. Explosion qui a tué 2 enfants de 3 et 5 ans et de cette femme qui avait ouvert le gaz. Son corps retrouvé dans les décombres hier. La France insoumise accusée de proximité avec des islamistes. C'est la conclusion de la commission d'enquête parlementaire après une trentaine d'auditions, dont celle de Jean-Luc Mélenchon, commission qui enquêtait sur des liens supposés des mouvements politiques avec des réseaux islamistes. Et donc, Cyprien Pézeril, service politique d'RMC, la France insoumise est pointée du doigt.
Oui, il y a de la complaisance de certains insoumis vis-à-vis d'islamistes, assure le rapporteur Mathieu Bloch. À l'heure du bilan, ce proche d'Éric Ciotti pointe donc du doigt de la connivence et de la proximité d'élus LFI comme Rima Hassan avec les défenseurs d'un islam politique. Mais la commission décriée pour sa composition très à droite ne va pas plus loin. L'objet initial était d'interroger l'existence ou non de liens formels avec des islamistes. Page 184 du rapport, elle conclut « Il n'y a pas de lien structuré démontrable à ce jour ». La commission qui appelle tout de même les partis dont LFI à rester vigilants. Et si les insoumis dénoncent un travail illégitime, partiel et partial, ils estiment surtout que Jean-Luc Mélenchon, en étant convié à une audition, est sorti gagnant. Un de ses proches confie tout sourire. Ça nous a offert un meeting gratuit, diffusé sur toutes les chaînes info.
Cyprien Pézeril, service politique d'RMC. Les agriculteurs français en route pour Bruxelles. Jusqu'à 3000 d'entre eux manifesteront devant la Commission européenne où se tient aujourd'hui un sommet des pays membres. Ils doivent valider l'accord commercial avec le Mercosur. Mais la France et l'Italie demandent un report au vu de l'inquiétude d'une concurrence déloyale des producteurs sud-américains. En France, Coopérative U et Leclerc promettent de ne pas acheter cette marchandise. Victor Joannin, en direct avec nous ce matin. C'est un vrai engagement ou un simple coup de communication?
Les deux, hein. Les enseignes de la grande distribution sont souvent ciblées par les agriculteurs en colère, donc c'est toujours malin de s'attirer leur clémence. Aujourd'hui, on ne trouve pas de viande fraîche d'Amérique du Sud dans les rayons, mais la situation pourrait changer si l'accord est signé et que les importations de viande moins chère du Brésil ou d'Argentine augmentent. Coopérative U va même plus loin puisque sa direction s'engage auprès des RMC à ne pas utiliser de viande Mercosur dans l'élaboration des plats préparés qu'elle commercialise sous sa marque propre, les raviolis de bœuf ou les nuggets de poulet. En revanche, la question se pose sur les produits transformés des autres marques, puisque les enseignes n'ont pas la main sur leur fabrication et qu'il n'y a pas d'obligation de transparence sur l'origine des ingrédients.
Et justement, Victoire, comment se positionnent les autres enseignes?
Intermarché et Carrefour avaient déjà pris cet engagement il y a un an et ils annoncent qu'ils le renouvellent. Décision saluée par un représentant de la filière bovine qui prévient tout de même, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, on saura le leur rappeler. En revanche, Auchan ne s'engage pas fermement. Sa direction m'indique qu'aucune viande sud-américaine n'est aujourd'hui présente dans ses rayons et que son combat et celui de l'origine française à chaque fois que les approvisionnements le permettent. Nous avons aussi sollicité Lidl, mais l'enseigne n'a finalement pas souhaité nous répondre. Donc considérons que Lidl ne s'engage pas jusqu'à preuve du contraire.
Les précisions en direct de Victor Johannin pour RMC. En football, un sixième trophée pour le PSG sur l'année 2025. Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe intercontinentale. Victoire des Parisiens contre Flamengo au terme d'une séance de tir au but. Le Quintet Plus, ça se passe à Deauville aujourd'hui à 13h55. La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 7, Chaopa. L'outsider, c'est le 11, Alf, le 7 et le 11.
C'était le journal de Clara Gamillet. Il est 7h36 et il y a Jean-Michel qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Jean-Michel, vous avez entendu tout à l'heure non seulement la colère des agriculteurs, mais aussi les inquiétudes, notamment des transporteurs sur les conséquences de ces blocages. Vous choisissez quel camp, Jean-Michel ?
Ah, moi, mon camp, il est vers les agriculteurs, bien sûr. Moi, mon intervention est surtout pour solliciter le gouvernement, les dirigeants, que plusieurs filières vont être en danger.
Avec le Mercosur ?
Pas le Mercosur, bien sûr, mais également... moi, j'ai un magasin de détail de fruits et légumes, de produits régionaux. Je travaille avec les agriculteurs, donc je suis à 100% avec eux. Mais on a des problèmes de livraison. Les fêtes arrivent. On a un gros pourcentage de nos chiffres d'affaires qui va se faire pour les fêtes. Et voilà, c'est là notre inquiétude. Et
vous êtes impacté ? Vous commencez à être impacté, Jean-Michel, sur les livraisons ?
Oui, on commence, bien sûr. Bien sûr qu'on est impacté. Les gens savent plus s'ils peuvent venir, si les routes. Mais je comprends la colère des agriculteurs. Je travaille beaucoup avec eux. On travaille beaucoup avec des producteurs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le gouvernement qu'il faut qu'il réagisse parce qu'il y a plein de filières. J'imagine pour les vacances de Noël, si ça continue, l'hôtellerie, les restaurations, nous, les magasins, pour les fêtes de Noël, les produits, etc.
Vous êtes épicier, Jean-Michel, où ça exactement ?
Moi, je suis épicier, primeur et des produits régionaux.
Et vous êtes où exactement ? C'est le moment d'en parler, ceux qui sont dans le coin.
On est à Saint-Angèle, le magasin Clémentine.
Allez, Clémentine, voilà. À Saint-Angèle. Jean-Michel, pour tous ceux qui écoutent RMC dans le coin, en Corrèze, vous allez saluer Jean-Michel. On reprécise donc que c'est ouvert et que vous avez à peu près tous les produits au moment où on se parle. Rien n'a été bloqué.
Oui. Aujourd'hui, non, pour l'instant, non. Et je suis à 100% derrière les agriculteurs.
Ça on l'entend bien. C'est d'ailleurs toute la difficulté, c'est qu'il faut à un moment qu'ils soient aidés et que leur question soit entendue. Je poserai aussi la question à Arnaud Rousseau tout à l'heure, qui est le patron de la FNSEA, qui est à Bruxelles. Il sera en direct de Bruxelles dans le face-à-face tout à l'heure, précisément pour tenter de lutter contre le Mercosur. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir témoigné comme lui. Vous nous appelez au 32-16. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu, du côté notamment du site WhatsApp de l'émission, il y a de nombreux commentaires sur ces blocages.
Mais précisément Apolline, c'est la première fois peut-être de la semaine qu'on voit un peu des divisions sur le fond. J'ai Laurent qui nous dit, est-ce qu'il faut demander aux Français les dates pour faire grève maintenant ? On a cet autre message du Médoc qui nous dit, les blocages c'est compliqué, mais il faut soutenir nos agriculteurs. J'ai ce message Thierry qui nous dit, incroyable, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les transporteurs qui râlent contre les paysans qui bloquent les routes, mais eux quand ils bloquent, ils se soucient des autres. Et c'est vrai qu'on a connu aussi des blocages par les transporteurs routiers. Tom nous dit, c'est tellement démago, tout le monde apprécie les agriculteurs, même si leurs conditions ne sont pas non plus celles du siècle d'avant. Pourquoi faire encore et toujours des blocages qui pénalisent les Français pour les fêtes ? Allons-y, rajoutons une grève SNCF pour bien pourrir la période de Noël. Donc non, si on fait des blocages, c'est à l'Assemblée, au Sénat, aux préfectures. On emmerde les décideurs, pas le peuple, nous dit Tom ce matin. Et j'ai Fab qui nous dit, les routiers sont marrants. Ils se plaignent des blocages comme s'ils n'avaient jamais bloqué les routes eux-mêmes. Ça revient assez régulièrement dans vos messages sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
Et dans un instant, la France et le ministère de l'Intérieur littéralement ridiculisés, et c'est très inquiétant. Au moins une centaine de fiches de police ont été dérobées par un ou plusieurs hackers. Bonjour Pierre-Paul Gianetti, vous êtes consultant en sécurité et d'ailleurs vous savez comment hacker, vous n'avez pas hésité à le faire. Alors vous étiez du côté des gentils hackers, si je puis me permettre ainsi, mais la question c'est évidemment en quelles mains vont tomber ces fiches. Est-ce que si on peut hacker le ministère de l'Intérieur, il reste encore un espace de sécurité en France ? Vous nous l'expliquez dans un instant, ce que le hacker a fait et ce qu'il peut en faire. Il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Des données du fichier des personnes les plus recherchées en France, du fichier des antécédents judiciaires qui se retrouvent dans la nature après un piratage du ministère de l'Intérieur. Et c'est ce que revendique un groupe de hackers. Bonjour Pierre-Paul Gianetti, vous êtes consultant en sécurité offensive pour Yes We Hack. Yes We Hack, je dois d'ailleurs préciser que vous-même vous savez hacker, vous avez hacké, mais vous revendiquez de l'avoir toujours fait pour les gentils, si je puis me permettre, dans ce monde extrêmement complexe. Mais c'est aussi pour ça que je veux vous entendre ce matin, pour savoir ce qui a pu se passer. Pour nous, néophytes, le ministère de l'Intérieur qui se retrouve hacké avec potentiellement pendant plusieurs jours des hackers qui ont pu se promener à l'intérieur des fichiers et qui à la fin en ont extrait un certain nombre, ça vous surprend ?
Ça me surprend pas. Enfin, le fait que ce soit le ministère de l'Intérieur, c'est très parlant et c'est tout de suite très visible. Mais ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, ça peut arriver partout, à tout type d'entreprise, privée, publique, toutes les institutions. Les mécanismes d'attaque sont pas nouveaux et malheureusement, ça peut arriver.
Alors, c'est quoi ces mécanismes d'attaque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont rentrés par où ?
Là, c'est justement tout un travail d'investigation qui est en cours pour comprendre exactement par où ils sont passés et comment ils sont passés. Mais il faut visualiser des hackers qui attaquent une entreprise exactement comme des cambrioleurs qui essayent de rentrer dans une maison. Quand on attaque le ministère de l'Intérieur, c'est vraiment comme si on attaque une immense maison avec énormément de résidents à l'intérieur. Il y a potentiellement plein de portes, plein de passages, etc. Et tout l'objectif de l'investigation en cours, c'est d'identifier exactement par où ils sont passés et comment est-ce qu'on peut corriger et s'améliorer.
Alors, les premiers éléments de l'enquête disent qu'il y a eu une sorte de double infraction. D'abord, via les messageries, c'est-à-dire les échanges de mails. Et ensuite, rentrer dans le fichier qui contient les données sur les personnes les plus recherchées. Comment ça marche, ça ?
Alors, comme vous l'avez dit, le premier sujet, c'est comment est-ce qu'ils sont tombés sur ces messageries, des mails. Voilà. Normalement, les mails, ça devrait pas être accessible. Je ne sais pas exactement par rapport au ministère de l'Intérieur, mais ça peut vraiment se passer dans n'importe quel contexte. Ce qui marche généralement de plus en plus, ça paraît surprenant, mais c'est ce qu'on appelle le hameçonnage ou phishing en anglais. Ça peut faire penser aux mails d'il y a 10 ans où on reçoit des mails avec des fautes d'orthographe, des logos un peu pixelisés en disant « cliquez ici ». On se dit « mais qui ferait ça ?» Sauf que maintenant, c'est de plus en plus personnalisé, de plus en plus ciblé. Et vraiment, dans la très très grande majorité des attaques, ça repose toujours malheureusement sur une erreur humaine. Et il suffit d'une personne qui fait une erreur à un moment.
Qui clique sur le mauvais dossier.
Exactement.
Et qui se fait, comme vous dites, hameçonner.
C'est ça.
Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on imagine que le ministère de l'Intérieur, c'est quand même un espace sécurisé, un bunker, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et là, on se rend compte que l'erreur, en fait, elle peut être juste humaine. C'est-à-dire que vous aurez mis tous les systèmes d'alerte possibles, les portes, les doubles portes, il suffit d'une personne qui se trompe.
C'est ce qui est terrible en sécurité, c'est que tout est interconnecté. Vraiment, la solidité de la chaîne, elle repose sur le maillon le plus faible à chaque fois. Et une erreur peut vraiment arriver à tout le monde, même des gens, honnêtement, enfin, très intelligents, qui ont été un peu sensibilisés, etc. Ça peut arriver.
Une erreur d'inattention, et c'est fichu. Un jeune homme de 22 ans a donc été interpellé hier à Limoges. Ce serait lui qui serait à l'origine de ce hacking. Il serait membre du groupe des hackers, connu pour des activités illégales de revente de données. Il revendique effectivement, en fait, il y a une revendication qui est Breach Forum de hackers et qui voudrait se venger de l'arrestation d'autres hackers, dont un soi-disant génie de l'informatique, un Britannique qui s'appelle Kai West. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces gens-là ?
Alors, les groupes d'attaquants, etc., ils sont très divers, très variés, ça change tout le temps, leurs motivations sont différentes. Mais vraiment, après, d'un point de vue cybersécurité ou d'un point de vue sécurité dans une maison, quand on met une porte blindée ou une serrure, un code, peu importe ce qui nous attaque en fait. Enfin, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à se défendre. Après toute la question.
Comment on peut se défendre ? Est-ce qu'ils auraient pu se défendre ? On parle beaucoup de la question de la double authentification qui est désormais à l'œuvre dans beaucoup, beaucoup d'organismes ou d'entreprises. C'est-à-dire l'idée que vous allez sur un site, mais on vous renvoie un texto, par exemple, sur votre portable pour pouvoir, avec un code, pour pouvoir confirmer que c'est bien vous.
Oui.
Et on découvre que cette double identification n'était visiblement pas en place partout au ministère de l'Intérieur.
C'est peut-être le cas effectivement, comme je vous ai dit, c'est vous pouvez sécuriser le plus possible votre maison. Si au bout du jardin, elle est connectée à un autre jardin, une autre maison qui lui n'a pas de porte blindée, de double authentification, c'est vraiment toute une chaîne de bout en bout. Il suffit pas juste de mettre la double authentification quelque part. Et la double authentification, c'est un mécanisme de défense technique. Le plus important, ça reste toujours la sensibilisation et la formation des utilisateurs, parce que dans la quasi-totalité des attaques, à la base, ça vient toujours d'une erreur humaine.
Mathieu. Après, les données sont extrêmement sensibles parce que c'est le ministère de l'Intérieur et en l'occurrence, on a remarqué une activité suspecte qui permet de savoir qu'on a été hacké. Est-ce qu'il est possible que des services, notamment des services de l'État comme le ministère de l'Intérieur, soient hackés et qu'on ne s'en rende même pas compte ?
Normalement non. Et le but, c'est justement de réduire le plus possible ce qu'on appelle le temps d'intrusion des hackers. Exactement comme quand des cambrioleurs rentrent chez vous. Le but, c'est d'avoir des alarmes qui sonnent le plus vite possible pour vous prévenir, etc. C'est exactement le même mécanisme en sécurité informatique. Quand des hackers rentrent, le but, c'est de les identifier le plus vite possible. Malheureusement, plus ils passent de temps, plus ils ont le temps d'aller voir certaines pièces.
Et ils ont, etc., semble-t-il, passé du temps.
Mais la différence avec un cambriolage, c'est que le cambrioleur, il part avec l'objet de son larcin. Là, ici, c'est un copier-coller. Objets qu'ils ont volés, les fichiers, ils sont restés toujours au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut louper l'info ?
On peut, c'est exactement. Si un cambrioleur rentre chez vous, prend des photos de vos dossiers, papier, repart.
Vous saurez pas forcément qu'il est parti.
Il faut repérer des traces, etc. Et c'est tout le travail des équipes sécurité informatique.
C'est ce qui fait que là, semble-t-il, pendant plusieurs jours, c'est passé totalement sous les radars. Merci beaucoup, Pierre-Paul Gianetti, de nous avoir aidé dans les méandres de cette sécurité. C'est particulièrement inquiétant. Vous êtes consultant en sécurité offensive. Donc, pour Yes We Hack. Pendant ce temps-là, la voix de gauche d'RMC est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cécile Duflo, la France manque de dermatologues. Prendre un rendez-vous, on en parle depuis ce matin, est devenu presque impossible. Et pour vous, c'est grave.
Oui, c'est grave parce que les dermatologues sauvent des vies. Alors, je pense qu'il faut maintenant sauver les dermatologues.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo, qui alerte sur le manque de dermatologues. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec la saga Retour vers le futur.
Sur scène, le retour de Retour vers le futur, Back to the Future, the musical, une comédie musicale qui était jouée à Londres à partir de 2020, mais qui a fait le tour du monde depuis. Hommage à la trilogie vue par près de 5 millions de spectateurs et qui va donc poser ses valises à Paris au mois de septembre 2027, c'est dans le futur pour le coup. Oui, il va falloir patienter un peu, l'annonce a été faite alors qu'on fête les 40 ans de la saga du voyage de Marty McFly dans le temps en DeLorean. Dans la comédie musicale, on retrouve l'histoire du film bien sûr, mais aussi ses musiques, ses gags, son énergie. Le spectacle est passé par Londres, Manchester, mais aussi Broadway, New York, Sydney, Tokyo. Et c'est donc à la scène musicale près de Paris que vous pourrez voir le retour vers le futur sur scène, en comédie musicale. La billetterie, elle, est déjà ouverte avec des places qui vont de 40 à 110 euros.
Nom de Dieu.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche. Voix de droite.
Et ce matin, comme chaque jeudi, c'est la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, ce matin, vous attaquez à un sujet grave, le manque de dermatologues en France. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un rendez-vous. Quand il y en a un encore dans votre département, parce qu'il faut attendre en moyenne entre 3 et 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Et pour vous, il y a urgence, c'est grave.
Oui, il y a urgence parce qu'il y a effectivement des départements où il n'y a plus de dermatologues, j'y reviendrai, mais surtout parce que la dermatologie, c'est une médecine qui sauve des vies. Alors on pense évidemment très simplement et facilement au cancer de la peau, les cancers de la peau dont la détection a énormément augmenté, mais dont on sait que plus ils sont détectés tôt, plus le pronostic est bon. Donc le rôle des dermatologues sur ce travail de détection très tôt, il est primordial. Donc plus on décale les rendez-vous, ou si on peut prendre un rendez-vous à 6 mois, 8 mois, 1 an, et ben c'est tout ce délai-là qui est une chance perdue.
Alerte cancer, alerte sur d'autres maladies aussi tout aussi graves. Hein.
Oui, et c'est ça qu'on a tendance peut-être à oublier. On pense cancer de la peau, et puis beaucoup de gens pensent ben, du coup intelligence artificielle, qui est vrai, qui peut être un appui. Mais il y a beaucoup d'autres maladies qui sont prises en charge par les dermatologues, en particulier l'eczéma, le psoriasis, l'acné très importante, qui sont des maladies très invalidantes, qui parfois provoquent, avec d'autres comorbidités, d'autres symptômes et aussi des souffrances personnelles et psychiques très grandes.
Donc la dépression, effectivement, qui peut aussi en être la conséquence. On comprend bien cette gravité. La peau, c'est un organe vital.
Oui, et c'est là aussi, il faut faire un pas plus loin. La peau, c'est un organe sentinelle. C'est-à-dire que on peut détecter beaucoup d'autres maladies qui ne sont pas des maladies de peau grâce à la peau, notamment le diabète, le VIH, des maladies très graves, mais aussi des cancers internes. Et ça, c'est tout le savoir-faire, la capacité de mettre en lien différents symptômes. Quand on a une consultation de dermatologie et qu'on raconte à son dermatologue qu'on vient pour quelque chose de particulier, mais qu'il est capable de déplier l'ensemble des symptômes et d'en faire un vrai signal d'alarme.
Au moment où on se parle, il y a 4 départements en France où il n'y a pas un seul dermato.
Oui, on parle souvent des déserts médicaux et ça semble un peu théorique. Puis on dit, en fait, on peut se connecter sur Internet, etc. Sauf que même si on peut imaginer que les médecins généralistes puissent traiter un certain nombre de cas, parfois il faut quand même avoir un dermatologue. Et si on habite à Châteauroux, dans l'Indre, à Nevers, à Château-Chinon, dans la Nièvre, ou en Lozère, cher à mon cœur, à Mende, à Langogne, c'est des départements sans dermatologue. Pareil pour l'Ariège. 4 départements en France où il y a 0 dermatologue aujourd'hui.
Comment on en est arrivé là?
On en est arrivé là parce qu'il y a eu un numerus clausus et puis il y a un signal d'alarme très important qui est que là, la moitié quasiment des dermatologues ont plus de 60 ans. Donc ça va aller très vite. Il faudrait donc mettre en place un rattrapage. Alors il y a débat en leur sein, au sein du nombre qu'il faudrait. C'est pas moins de 100 dermatologues qu'il faut former par an, mais c'est au moins 125. On est sur 25 dermatologues par an en plus qui peuvent changer les choses. Donc on ne parle pas de nombre déraisonnable. On parle en revanche d'une vraie urgence.
Ce qu'on appelle le numerus clausus, et c'est la même question d'ailleurs sur les déserts médicaux en général, hein, c'est le nombre maximum de médecins que l'on forme par génération. Il y a une pétition qui a été lancée par les dermatologues début décembre.
Oui, il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui a quelques milliers de signatures et je pense qu'il faut signer parce que je crois que tout le monde est concerné par ça et puis chacun se dit c'est dans mon coin, c'est moi qui n'arrive pas à prendre un rendez-vous. Non, c'est un problème systémique là et il y a un vrai signal d'alarme. Donc j'appelle vraiment à signer cette pétition lancée par un collectif de dermatologues sur le site de l'Assemblée nationale.
Merci Cécile Duflot, Voix de Gauche sur RMC. On vous retrouve demain pour le débat. Voix de droite, Voix de Gauche, face à vous, ce sera Charles Consigny. À la une du journal de 8h dans un instant, les agriculteurs français qui sont en route vers Bruxelles. Ils s'opposent à la signature par l'Union européenne du traité du Mercosur. Mon invité à 8h30 d'ailleurs, ce sera le patron de la FNSEA et il sera en direct de Bruxelles. Du côté de la météo, forte pluie en Bretagne. Et puis il va y avoir Emmanuel Lechypre qui sera avec nous. Emmanuel, vous arrivez avec une bonne nouvelle. Mais pour une fois, la croissance française finalement est en forme.
Oui, elle est vaillante cette petite économie française. Elle résiste aux mauvais vents de l'étranger, elle résiste au bordel français. Et du coup, l'INSEE nous dit oui, on fera mieux que prévu.
Ça continue à nous surprendre quand même, cette bonne vieille et petite économie, comme vous dites. Et puis, vous le savez, il est encore temps de vous inscrire pour pouvoir jouer avec moi à 8h20 au calendrier de l'Avent. On continue à vous offrir des fabuleux cadeaux. Et en plus, aujourd'hui, on va ouvrir 2 cases du calendrier. Vous avez encore le temps d'envoyer Noël au 732-16. Noël au 732-16. Et le gagnant sera avec moi dans 20 minutes. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La colère agricole du nord au sud ce matin. Des centaines de tracteurs sont en route pour Bruxelles pour s'opposer à la signature du Mercosur aujourd'hui. Et des points de blocage toujours ce matin dans le sud-ouest contre les abattages de troupeaux. Le verdict attendu ce jeudi aux assises de Besançon au procès du docteur Péchier qui se tient depuis 3 mois. RMC devant le tribunal. Et la grippe qui pourrait bien gâcher les fêtes de fin d'année et même Noël. Toutes les régions sont désormais touchées par l'épidémie.
La colère est double ce matin chez les agriculteurs.
Alors il y a toujours des actions, 80 au dernier pointage, contre les abattages de troupeaux en cas de dermatose nodulaire. C'est surtout le sud-ouest qui est concerné. L'autoroute A64 qui longe les Pyrénées, qui est toujours coupée à la veille des vacances scolaires. On aura l'occasion d'en reparler. Et il y a ces convois de tracteurs qui se sont élancés tôt ce matin en direction de Bruxelles pour s'opposer donc au Mercosur. La signature est attendue aujourd'hui. 10 000 agriculteurs quand même sont attendus devant la Commission européenne. 2 à 3 000 Français dans le lot, comme certains, comme ce producteur de pommes de terre qui est parti tôt ce matin donc de la région lilloise.
L'idée, c'est quand même de garder une souveraineté alimentaire au niveau de notre pays. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait au niveau européen, c'est une catastrophe. Pourquoi de nous exiger certaines choses et importer des choses qui n'ont absolument rien à voir? Et en plus, alors si on parle d'environnement, là c'est une catastrophe. On déforeste, on fait n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc je suis un peu révolté, je vois très mal l'avenir de notre agriculture dans les 4-5 ans qui arrivent. Nous on est agriculteurs de père en fils depuis des générations hein, et je veux pas qu'on meure. Donc on va se révolter et s'ils n'ont pas compris, on ira plus loin. ils n'ont pas idée de ce qui va arriver.
Alors, est-ce que ces convois d'agriculteurs auront une incidence sur le sort de cette journée? C'est important de bien comprendre ce qui va se jouer aujourd'hui à Bruxelles. Cette journée est très importante. Un Romain Hougue en direct pour RMC. Ça fait 25 ans qu'on parle du Mercosur, là, ce traité entre Européens et Sud-Américains. L'Europe est encore divisée sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, on sait que ça va se jouer à rien du tout.
Oui, car il y a ceux qui sont pour. Ils y voient un réel bénéfice pour leur économie. C'est le cas de l'Espagne, qui met en avant ses exportations de vin et d'huile d'olive, ou de l'Allemagne, qui espère ainsi écouler plus de voitures produites par ses constructeurs en difficulté. Et puis, il y a ceux qui sont contre, la Hongrie, la Pologne et la France, qui estiment que les agriculteurs ne sont pas assez protégés. Depuis hier, l'Italie les a rejoints pour les mêmes raisons.
Oui, et alors ça, c'est une position qui rebat complètement les cartes.
Oui, alors la décision finale de Rome sur ce dossier est encore incertaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est décisive, parce qu'avec la France, la Hongrie et la Pologne, l'Italie est en capacité de former une minorité de blocage au sein des 27 qui empêcherait la signature de l'accord que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, espère signer ce samedi au Brésil. Le Brésil, où le président Lula s'impatiente et lance cette nuit un ultimatum.
Je les ai déjà prévenus. S'ils ne signent pas maintenant, le Brésil ne signera plus cet accord tant que je serai président.
Sur place à Bruxelles, les tractations s'annoncent très tendues. Le chancelier allemand Friedrich Merz a promis d'exercer une pression intensive sur ses partenaires européens jusqu'à la dernière minute.
Et on verra ce qu'en dit Arnaud Rousseau, le président de la FNSE, un des syndicats agricoles qui sera l'invité d'Apolline de Malherbe tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Ça fait des années qu'on parle à travers ce traité de sécurité alimentaire. Eh bien, à ce sujet, l'association 60 millions de consommateurs s'est penchée sur ce qu'on donne à manger à nos enfants en inspectant 165 produits pour bébés, même pour les tout petits, puisqu'on parle là de biscuits, de yaourts, de compotes, de purées. Louis Salé pour RMC, c'est édifiant. Plus de la moitié de ces produits sont ultra transformés, avec donc, comme on peut l'imaginer, des conséquences sur la santé.
Oui, plus le bébé est exposé à ces ingrédients industriels, plus il en consomme ensuite en grandissant, avec le risque de devenir obèse, diabétique et de développer des maladies cardiaques. Attention surtout au goûter. D'après 60 millions de consommateurs, plus de 90% des desserts lactés et biscuits sont ultra transformés. Sophie Kwan est rédactrice en chef adjointe du magazine.
Dans les desserts lactés, l'ultra transformation prend la forme de jus concentré de fruits, d'arômes naturels ou artificiels, ou de pectine. On a été estomaqué de découvrir l'équivalent de biscuits apéro pour bébé. Parce que c'est des produits très légers, très croustillants. Et donc, ça engage le cerveau à en manger davantage. C'est habituer le bébé au prêt-à-manger et au snacking.
Pour un enfant, l'idéal, c'est de donner des petits morceaux de fruits naturels. Selon l'enquête, Nestlé et Blédina sont les marques qui proposent le plus de produits ultra-transformés en rayon.
Il est 8h04 sur RMC. Le verdict est attendu aujourd'hui aux assises de Besançon, au procès du docteur Péchier, l'ancien anesthésiste jugé depuis 3 mois pour des empoisonnements de patients, 12 cas mortels. Lui clame son innocence, mais c'est bien une peine de réclusion criminelle à perpétuité qui a été requise. Pierre Bazin, vous êtes devant le tribunal en direct ce matin pour RMC. Vous nous dites que le point final de cette affaire est très attendu ce matin à Besançon.
Oui, et pour preuve, il y a du monde ce matin devant le tribunal qui accueille la cour d'assises du Doubs, des dizaines de parties civiles évidemment, mais aussi du public en nombre depuis l'ouverture du procès. La sécurité, elle, a aussi été renforcée. C'est d'ailleurs sous bonne escorte que Frédéric Péchier arrivera. L'accusé, qui avait interdiction de sortir de son lieu d'hébergement depuis lundi, devrait arriver dans une voiture de police qui s'engouffrera directement dans le tribunal. Jusque-là, c'est à pied qu'il se présentait tous les jours. Ensuite, la cour, les magistrats professionnels, les jurés tirés au sort il y a 3 mois et demi entreront dans la salle pour commencer la lecture de la décision. Pour chacun des 30 empoisonnements, l'accusé sera déclaré coupable ou innocent avant l'annonce d'une peine s'il y en a une. Cela devrait donc prendre du temps. Les parties civiles que nous avons rencontrées espèrent la réclusion criminelle à perpétuité. La défense de Frédéric Péchier, elle, a martelé lundi lors de sa plaidoirie que les enquêteurs avaient créé un criminel en reliant entre elles une série de coïncidences. Dernière précision, si la cour condamne Frédéric Péchier, il sera incarcéré dans la foulée.
Cette information, tiens, qu'on apprend à l'instant, vous vous souvenez de l'évasion à la prison de Dijon, c'était le 27 novembre dernier, 2 détenus qui s'étaient échappés en sciant les barreaux de leur cellule et en passant par la grande porte d'entrée de cette prison. Un des fugitifs avait été interpellé quelques jours plus tard. Eh bien, le deuxième, âgé de 19 ans, a été interpellé ce matin à Marseille. Selon nos confrères de BFM TV, il va être présenté à un juge dans la journée car il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc, cette interpellation du deuxième suspect qui s'était évadé de la prison de Dijon. que je vous disais en titre, la grippe qui pourrait bien gâcher les fêtes de fin d'année. Pourquoi ? Parce que désormais, eh bien, toutes les régions sont en phase épidémique, même la Corse qui était épargnée jusque-là. Et les dernières projections de l'Institut Pasteur et de Santé publique France donnent un pic de l'épidémie. Et bien pile quand il ne faut pas, à savoir la semaine de Noël, pendant les grands rassemblements de famille. D'où ce rappel de la ministre de la Santé. Écoutez-la, c'est Stéphanie Rist.
Je sais que ça fait plaisir à personne, mais de rappeler que quand on est enrhumé, c'est mieux de mettre un masque parce que vous évitez la propagation, et notamment si vous êtes autour de personnes fragiles ou dans des milieux fermés, les transports. S'il vous plaît, on remet les masques, on se lave les mains et que régulièrement on aère les pièces. Il est encore temps pour les personnes qui ont plus de 65 ans, qui sont fragiles, qui sont enceintes, d'aller se faire vacciner. Le vaccin va éviter les passages aux urgences et faire que les grippes seront moins sévères ou éviter d'avoir la grippe.
Et puis il y a une coupe de plus ce matin dans l'armoire à trophées du Paris Saint-Germain. Je parle de football bien sûr. Le sixième trophée de la saison remporté pour les Parisiens qui avaient déjà gagné la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Supercoupe d'Europe. Et donc, depuis hier, la Coupe Intercontinentale contre les Brésiliens de Flamengo, ça se disputait au Qatar, ça s'est joué au tir au but avec une séance qui a été marquée notamment par les quatre arrêts du gardien parisien Safonov. C'est rare quand même, quatre arrêts durant une séance de tir au but.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Lechypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Eh bien écoutez, finalement, et c'est toujours surprenant, la croissance française est plutôt bonne.
Effectivement, malgré de puissants vents contraires à l'extérieur, c'est les droits de douane, par exemple, de Donald Trump, et à l'intérieur, ça, c'est le chaos budgétaire et politique chez nous, eh bien, l'économie française résiste assez vaillamment, si l'on en croit les nouvelles prévisions de l'INSEE. D'abord, sur l'ensemble de 2025, la croissance sera un peu plus forte qu'initialement envisagée. On sera à 0,9%. Et puis surtout, d'ici à l'été 2026, eh bien, on aura deux trimestres au cours desquels la croissance devrait être de 0,3%. Ça fait entre 1 et 1,5 en rythme annuel. C'est pas si mal.
Sur quoi on table ? C'est quoi les moteurs qui tireraient la croissance ?
Les entreprises principalement. Leurs carnets de commandes se regarnissent un peu et même si leur situation financière se tend, notamment à cause de l'alourdissement de la fiscalité, eh bien la baisse des taux d'intérêt leur permet quand même d'emprunter pour concrétiser de nouveaux projets d'investissement. Ce qui est passionnant dans cette étude, c'est le cas paradoxal, schizophrénique même, des ménages français. Les ménages français, figurez-vous, de tous les Européens, ce sont les plus pessimistes sur la situation de leur pays. Quand on leur demande « est-ce que la France va mal ?», il n'y a pas un pays où on vous dit que le pays va aussi mal que la France. Et pourtant, il y a peu de pays où les ménages sont aussi optimistes et confiants pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, la France, ah là là, ça va très mal. Mais nous, ça va pas si mal que ça. Leur morale globale est même plus bas qu'avant Covid. Donc, la réconciliation de tout ça, bah, on le voit bien, c'est un niveau d'épargne très important, historique. Et les Français, ils ne devraient que recommencer à dépenser timidement, notamment à cause de la stagnation attendue du pouvoir d'achat, malgré une énergie bon marché. Heureusement, il y aura des touristes. Des bataillons de touristes qui viendront consommer en France. Des hordes de touristes, on peut le dire, qui viendront dépenser et consommer chez nous. Pas grand-chose à attendre du commerce extérieur. Notre déficit agricole, quand même, se stabiliserait après une forte dégradation en 2025. On en parle suffisamment par ailleurs. Et puis, pourquoi ne pas espérer non plus une réduction du déficit petit colis ? Vous savez combien c'est le déficit commercial des petits colis ? Ça a été chiffré. C'est 4 milliards d'euros sur notre déficit commercial. Donc, si on prend des mesures anti-petit colis, peut-être que notre déficit commercial petit colis diminuera.
À quoi est-ce qu'il faut s'attendre en matière d'emploi ?
Alors, les entreprises restent frileuses aujourd'hui dans leurs intentions d'embauche et semblent privilégier plutôt la productivité sur l'emploi. En outre, le nombre d'alternants poursuivrait sa baisse entamée cet été pour des raisons réglementaires. En juin, il y aurait 70 000 emplois de plus que ce qu'on en a aujourd'hui, mais ce serait surtout des micro-entreprises. Le chômage augmenterait encore un peu, mais ça c'est aussi l'effet mécanique, vous savez, de la réforme des retraites qui continue à courir, hein, puisque le gel, ce sera que fin 2026. Et donc, finalement, bah, le fait que on repousse un peu l'âge de la retraite, bah, y a plus de gens sur le marché du travail, des gens un peu plus vieux qui sont un peu plus au chômage.
Merci.
Donc 7,6%, 7,8% de taux de chômage.
Merci Emmanuel. Il est 8h11. On va partir au 32-16. Khalid qui nous appelle du Muret en Haute-Garonne. Bonjour Khalid.
Bonjour.
Comment ça va ? Vous êtes responsable de travaux et au fond, non seulement vous soutenez les agriculteurs, mais vous vous demandez même s'il ne faudrait pas que d'autres professions s'agrègent à cette colère.
Exactement, je pense que s'il commence à faire peur au niveau de la grande distribution et les transporteurs, pourquoi pas s'allier à eux, faire un blocage national qui pourrait, je pense, durer pas plus de 24-48 heures.
Pourquoi vous voulez un blocage national? Contre quoi?
Contre le fait que ça fait 2 ans qu'on leur promet des choses, que rien n'est fait. On les entend intervenir dans plusieurs émissions et les revendications sont toujours les mêmes. On voit que rien ne change pour eux. Là, il y a cette maladie...
la dermatose.
Qui semble pour eux et au niveau européen contrôlable via la vaccination ou via une mise en quarantaine. Pourquoi tuer toutes des bêtes? C'est des exploitants qui passent des années à essayer d'avoir une qualité de viande, et on a une bonne qualité de viande en France. Pourquoi de suite les...
En fait, vous considérez que trop c'est trop, que ça fait 2 ans que les agriculteurs se plaignent des normes, de la concurrence déloyale, des difficultés à s'en sortir, que les dermatos se rajoutent là-dessus. Pour vous, au fond, il faut vraiment qu'ils obtiennent gain de cause cette fois-ci, quoi.
C'est ça, exactement.
Mais vous seriez prêt, Khalid, vous travaillez dans le domaine des travaux, je crois. Vous seriez prêt, vous, à participer à ce blocage?
Bien sûr.
Bien sûr.
Je vis juste à côté de l'autoroute A64, j'ai vu bloqué. Alors oui, ça bloque légèrement, ça fait quelques bouchons, mais c'est pas non plus, je vois pas non plus pour l'instant de...
Limite, vous préféreriez que ça bloque un bon coup, quoi.
Ouais, voilà, que ça bloque un bon coup, que l'État prenne ses responsabilités et qu'on arrête de passer pour des imbéciles, de perdre de la puissance internationale. Et qu'on dise au niveau européen, voilà, nous sommes la France, nous sommes quand même un grand pays, donc.
Vous aimeriez que ça réveille vraiment le gouvernement là-dessus, mais ce que je trouve très intéressant, que vous êtes nombreux à le dire, c'est que votre inquiétude, c'est aussi ce que l'Europe montre, enfin ce que la France montre comme signal en Europe d'un pays finalement trop faible pour prendre des décisions. Merci beaucoup, Khalid. Ça se jouera d'ailleurs à Bruxelles aujourd'hui avec la question du Mercosur. Mon invité à 8h30, ne le manquez pas, ce sera Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Il sera en direct de la manifestation à Bruxelles. 8h14.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche. Et bonjour.
Les 8h17. Arnaud de Manche avec
Pauline.
Nous.
Bonjour les amis. Salut, on est pile une semaine avant Noël et j'ai eu du courrier hier parce qu'on n'a pas fait le calendrier de l'Avent du LOL. Les gens étaient déçus.
Ah oui,
aujourd'hui,
ils attendaient, ils manifestaient.
Deux cases. Des manifs à Bruxelles. Deux cases, alors deux blagues. Quelle est la pâtisserie préférée des magiciens?
La
tarte.
Tatin.
Sublime.
Et on l'a ressenti pour le réveillon.
Ça dénonce. Prends ça, Poutine.
Très engagé.
Et que dit un poussin de 200 kilos à Poutine, à Pauline?
C'est ma préférée de toutes les blagues du monde.
Bah, Mathieu et moi, on va se prendre un contrôle fiscal, mais on n'a pas peur, Mathieu.
On y va.
La liberté. Coluche, t'aurais dû être président, mon pote.
Voilà. Oh,
putain de camion. Voilà, la politique, c'est fait. Petit point conso maintenant. Tout le monde a ses cadeaux de Noël?
Oui. Non.
Alors, si vous ne savez pas quoi choisir, je vous redonne la liste des 3 cadeaux qui ne font jamais plaisir. Une smartbox découverte des plus beaux sentiers pédestres autour de Charleville-Mézières.
D'accord. J'hésitais, c'est dommage.
Je peux arrêter. Les cours de cuisine, qu'on ne fera pas parce que c'est un jeudi à 15h. Soyez sympa sur les ordres. Et les chocolats, mon chéri, je pense que personne ne mange vraiment des mon chéri. Je pense que le chiffre d'affaires de cette société ne tient que sur les gens qui les offrent.
Ah oui,
sur les gens qui les mangent. Regardez bien la date de péremption parce que c'est probablement la même boîte qui tourne dans la famille depuis 20 ans. Chacun se réoffre d'année en année. Ça passe de neveu en nièce, de cousin en maman. C'est comme une MST dans le Nord.
Oh.
Alors, à propos de Noël.
Oui.
Le PSG a été condamné par les prud'hommes à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Voilà, le milliardaire a triomphé du multimilliardaire. Il y a une justice sociale dans ce pays. Coluche,
mon pote.
Donc la comptable du PSG, ça fait 3 mois qu'elle demande un RTT et un nouveau micro-ondes pour la salle de pause. Et là, elle va devoir rédiger un chèque de 61 millions d'euros pour quelqu'un d'autre. La pauvre, je la plains. Avec tout ce pognon en moins dans les caisses du pays, bah le Qatar va déposer le bilan. Hein. Ils ne pourront pas payer tous leurs employés ce mois-ci, c'est pas possible. Donc mauvaise nouvelle pour tous les salariés des Qataris, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabian Ruiz, Dominique de Villepin. Ils ne seront pas payés ce mois-ci. Bon courage à eux, on les embrasse.
Le parquet national financier a demandé le renvoi de 11 personnes, oui, dont Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy et Mimi Marchand, dans l'affaire Ziad Takieddine.
Oulala, il ne faut surtout pas mettre Carla Bruni en prison, s'il vous plaît. Même 3 jours, elle est capable de nous sortir un nouvel album spécial prison.
Il y a Sarko qui m'a dit de ramasser la savonnette ou la douche.
Bon, Mimi Marchand, la reine des paparazzis, est mouillée dans cette affaire. C'est une bonne copine de Brigitte Macron qui a tenu à lui apporter son soutien en disant « C'est quand même pas ces connards de juges qui font la loi dans ce pays, non ?» Non, Brigitte, on se calme, on va essayer de se détendre. Mais je suis détendu. Demain, on fait un dîner sympa en plus avec Dieudonné et le patron du CRIF. Ah bon ? Ils sont au courant ? Non, pourquoi ? Ça promet. Alors, donc, vous l'avez vu la vidéo des excuses de Brigitte Macron ? Il y a un passage étonnant quand même où elle explique « C'est pas la femme du président qui parle. Des fois, c'est juste la femme comme tout le monde. » C'est une bonne combine, ça. Mmh. Heureusement que Macron le fait pas. Hein. Mmh. Imaginez avec Trump et Poutine. Alors, les connards, on continue à faire chier ? Moi, je vous balancerais bien un missile nucléaire dans les dents à tous les deux. Pardon, c'est pas le président qui parle. C'est l'homme. Heureusement qu'au procès Fourniret, son avocat, il a pas dit « Il ne faut pas avoir le geste d'un tueur, mais celui d'un enfant qui n'a pas grandi. » Si on est joueur, ça se plaide, mais faut être... Très joueur.
Alors, selon un sondage pour la revue politique L'Hémicycle, les candidatures de personnalités de la société civile ne parviennent pas à dépasser les 3% d'intention de vote des Français à la présidentielle.
Oui, alors Teddy Riner, il est crédité à 3%, Patrick Sébastien 2%, Cyril Hanouna 1%. Je préfère annoncer ces résultats à Teddy Riner à la radio. Je me sentais pas de lui dire en face. Par contre, le loup végétarien d'Intermarché est à 35%.
Ah, voilà.
Second tour face à Jordan Bardella, ça va faire un très joli débat de l'entre-deux tours. Monsieur d'Intermarché, vous êtes une imposture, un mouton déguisé en loup. Et vous, monsieur Bardella, je fais ce que je peux.
C'est le loup.
Et vous, monsieur Bardella, vous êtes un veau déguisé en loup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Où trouvez-vous toute cette énergie? Marine, je peux avoir encore un média training à 130 000 balles? Ok, mais cette fois, on engage Laurent Baffy. Hein, cours de répartie, obligatoire. Et là, t'as média training avec Baffy. Salut Jordan. Eh bien, non, je t'ai vu sur France 2 parler de Trump. J'espère que tu seras jamais en face de lui, parce que le seul truc que tu vas lui dire, ça sera... Vas-y, réponds à ça. Où trouvez-vous toute cette... Non, ça j'ai déjà dit. Je vous trouve bien inélégant, monsieur Baffy. Et là, il prend son petit air pincé de Pascal Sévran qui a vu un rappeur. Vous avez vu dans la vidéo, il a une petite bouche. Donc il y a du boulot. Courage pour le taf, Laurent Baffy. Allez, à demain.
Bon, complètement malade. C'était Arnaud Demange.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Un fabuleux Noël que l'on va offrir tout de suite à Élodie. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Élodie, vous êtes dans le Val-de-Marne et c'est vous qui avez gagné aujourd'hui. Et alors attention, vous n'avez pas gagné qu'une fois, vous avez gagné deux fois. On va d'abord ouvrir la case du jour. Je crois que nous sommes le...
Le 18.
Allez, le 18. On y va. Hop, hop, hop. Le 18. Oh.
Allez.
Oh, 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 vous avez déjà gagné. Donc, au moment où on se parle, attention, grâce à Micromania Zing, vous avez remporté la PlayStation 5.
Wow. C'est pas vrai. Ouh.
La PlayStation 5 Slim d'une valeur de 450 euros. Micromania Zing vous offre aussi la Miam Box spéciale, la fameuse, la Miam Box spéciale Noël, une boîte mystère avec une sélection de friandises originales pour Noël. Félicitations.
Merci.
Et alors maintenant vous avez le droit de choisir une autre case entre le 19 et le 24. Alors, qu'est-ce qu'on choisit?
Allez le 19.
Allez le 19, on y va. On l'ouvre.
C'est la fin.
Elle est coincée.
Ouais.
Oh, elle est coincée.
Ça doit être bien. Ça doit être bien. Elle a des yeux fermés.
Attention. Un chèque de 500 francs.
Oh, 500 francs.
Oh, non.
Mais dis donc,
j'ai
voulu 11 euros. J'ai voulu la casser.
En fait, pour moi, les chèques, c'est tellement associé aux francs. Pardon.
100 francs CFA.
Ce sont donc des euros, Élodie.
Je préfère, en fait.
Ouais, vous avez bien raison. Élodie, vous venez de gagner 500 euros.
C'est pas vrai, merci. Merci à RMC, merci à Pauline, merci tout le monde.
Et sans impôts. C'est net d'impôts. C'est net d'impôts, les jeux.
Donc, okay,
félicitations, Élodie, qui remporte donc la PlayStation et les 500. 500 euros. Félicitations. Belle journée à vous. Merci d'écouter. Nous sommes en 2025. Il est 8h24 et dans un instant, mon invité, c'est Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Saura-t-il calmer les agriculteurs? Lui qui n'est pas contre la stratégie, notamment la stratégie vaccinale du gouvernement. Mais en revanche, il est très très contre le Mercosur. Il est d'ailleurs à Bruxelles avec 3000 manifestants français qui arrivent de partout, des agriculteurs avec leur tracteur pour tenter de mettre fin au Mercosur. Réponse donc dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. On est avec Arnaud Rousseau. Bonjour Arnaud Rousseau, vous êtes le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Et vous êtes, je le précise, y compris pour ceux qui nous écoutent, à Bruxelles, en direct de Bruxelles ce matin. 3000 tracteurs français ou manifestants français agriculteurs qui convergent vers Bruxelles. Manifestation aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui notamment que ça se joue sur le Mercosur. Est-ce que la France réussira à repousser, voire à faire annuler le Mercosur? Je vous pose la question dans un instant sur le Mercosur, mais au fond, vous êtes à Bruxelles. Pendant ce temps-là, en France, sur le territoire et notamment dans le sud-ouest, il y a toujours 80 points de blocage qui sont recensés ce matin sur les routes, sur les autoroutes. Est-ce que cette situation-là, en réalité, elle n'est pas en train de vous échapper totalement?
Bonjour Apolline de Malherbe, vous savez ce qui compte au moment où on se parle, c'est de construire l'avenir de l'agriculture française. Et ce qui se passe en France, dans le sud-ouest, dans d'autres endroits, ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles sur le Mercosur, vous l'avez indiqué, c'est quelle agriculture et quelle alimentation on veut pour l'Europe et pour les Français dans les 20 prochaines années. C'est ça l'objectif. Et vous savez, de savoir si les querelles syndicales animent le débat n'a pas d'importance. L'enjeu est beaucoup trop important aujourd'hui pour les querelles. Ce qui compte, c'est quel avenir pour l'agriculture et comment on le construit collectivement, où que les agriculteurs se trouvent. Ils ont besoin d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut faire de l'agriculture, ce que le chef de l'État, M. Macron, veut faire de l'agriculture, et comment, encore une fois, on garantit aux Français qui sont peut-être encore en train de déguster leur petit déjeuner, qu'est-ce qu'on leur mettra dans leurs assiettes dans les années qui viennent. Voilà l'enjeu aujourd'hui, et c'est là-dessus que nous sommes concentrés.
Ça veut dire que pour vous, il y a une continuité entre les manifestations qui sont sur le terrain en France et la manifestation qui se passe en ce moment même et qui va avoir lieu aujourd'hui à Bruxelles?
Oui, bien sûr. Vous savez, ce qui a ému autour de la dermatose, cette maladie qui touche les vaches, c'est la goutte d'eau. Parce que la situation en France économique dans bien des territoires, l'Occitanie évidemment, mais dans d'autres régions, que ce soit en viticulture, que ce soit en grande culture, que ce soit aujourd'hui sur le sanitaire, en élevage avec la dermatose, mais je pense aussi à la grippe aviaire qui touche durement une partie du Grand Ouest, notamment la Vendée, tout le monde s'interroge sur comment demain on va pouvoir à la fois avoir un cadre européen qui protège la production avec des standards, je le redis, pour les consommateurs parmi les plus élevés, comment on va pouvoir continuer à vivre de notre métier parce qu'on a besoin d'avoir du revenu, et puis comment on garde la confiance des consommateurs.
Les blocages, est-ce que vous, en tant que patron de la FNSEA, vous appelez à ce qu'ils soient levés?
Non, mais ça n'est pas la question du moment, et vous savez, dans notre réseau, enfin, comme ailleurs,
quand même,
je crois...
Hein, avec quand même une urgence compte... aussi, pardon de vous le redire, mais dans quelques jours, c'est Noël. Je recevais par exemple ce matin sur RMC le représentant des transporteurs routiers dans une partie du Sud-Ouest qui disait, à quelques jours de Noël, pour nous, c'est extrêmement pénalisant. On n'est pas tout à fait sûr de pouvoir continuer à approvisionner les supermarchés, les commerçants, les colis. Donc la question des blocages, elle se pose de manière très urgente.
Oui, j'entends Apolline de Malherbe, j'entends évidemment, mais encore une fois, c'est au gouvernement et c'est à Bruxelles d'apporter les réponses. Vous savez, depuis plus de 2 ans maintenant, on est mobilisé. Cette colère, c'est une surprise pour personne, en tous les cas pour ceux qui suivent le secteur. Et notre ambition ou notre objectif n'est pas d'emmerder les Français. Nous l'avons dit depuis 2 ans, mais nous avons besoin de réponses politiques. Nous avons besoin que l'Europe confirme que l'agriculture continue à avoir du sens, et c'est ça l'objectif. Et je le redis, notre objectif n'est absolument pas d'ennuyer les Français au moment où ils vont aller se rencontrer et vivre des moments de convivialité autour de Noël. Nous sommes aussi attachés à la trêve de Noël, mais aujourd'hui nous avons besoin de réponses très claires pour l'avenir de l'agriculture.
Alors ça se joue effectivement aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour réussir au moins à repousser l'échéance, à peut-être améliorer le Mercosur, voire même à le supprimer? Qu'est-ce que vous demandez exactement?
Écoutez, en tous les cas, on demande d'abord au président de la République de dire très clairement non pour la France. Et vous savez que depuis quelques semaines, on a parfois compris qu'il y avait des hésitations. Et donc aujourd'hui, pour nous, il faut dire non à cet accord. Ça n'est pas dire non à l'ouverture et au commerce, c'est dire non clairement à un accord vieux de 25 ans. Vous savez, 25 ans, moi, je ne sais pas si Apolline de Malherbe, vous saviez, vous étiez il y a 25 ans, mais moi, il y a 25 ans, j'étais bien loin de toutes ces questions-là. Et un accord qui met plus de 25 ans à être voté, c'est un accord qui est mal monté, qui est mal né. Et cet accord, il faut en tourner la page, parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est la réciprocité. C'est que l'Europe garantisse que les conditions de production soient respectées. Donc non, la France ne peut pas accepter cet accord. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est que pèse aujourd'hui la France en Europe? Quel est le poids du président de la République et de la France, qui ont été des fondateurs de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, pour faire en sorte que les intérêts français, et notamment agricoles, je redis que la France a la première agriculture européenne, soient défendus. Voilà l'objectif pour nous.
Ce qui vous inquiète le plus au fond, c'est la faiblesse.
On jugera sur pied, je crois que demain soir, on verra.
C'est la faiblesse de la France qui vous inquiète le plus aujourd'hui. C'est le fait qu'elle ne soit pas forcément capable, elle, de peser suffisamment. Moi, ça me frappe quand même. Dans vos mots, vous dites, nous, on doit dire non. On doit considérer que cet accord, de toute façon, ça fait 25 ans qu'il traîne, donc il n'est pas bon. Or, à aucun moment, me semble-t-il, dans la parole de la France, il n'a été question de l'annuler purement et simplement. À chaque fois, il y a une sorte de petit astérix qui nous dit, en l'état, c'est pas jouable. Vous voudriez qu'on le jette à la poubelle, point barre.
En tous les cas, pour ce qui concerne l'agriculture, cet accord est très déséquilibré. Emmanuel Schipp l'a redit il y a quelques minutes, même si quelquefois il y a des intérêts offensifs. Ce qui ne va pas dans cet accord, c'est l'absence de réciprocité. On ne parle pas d'ailleurs de mesures miroirs ce matin à Bruxelles. Et ce qui ne va pas non plus, c'est très clair, c'est cette clause de rééquilibrage qui est extrêmement nocive pour l'avenir du continent européen. Donc non, nous n'en voulons pas. Et oui, nous sommes inquiets aujourd'hui du poids de la France en Europe, parce qu'on voit bien que nous avons perdu du terrain, je le regrette. Et ça, nous en serons évidemment extrêmement vigilants aujourd'hui. Mais encore une fois, nous allons attendre le résultat. Vous savez, pour nous, c'est absolument essentiel qu'on puisse, en tous les cas, continuer à commercer, mais le faire avec des règles de juste échange. C'est ce que nous réclamons depuis des mois. Personne ne découvre notre position et on est évidemment très déterminés.
Donc vous êtes extrêmement déterminé, ça veut dire quoi déterminé? Ça veut dire que si jamais l'Union européenne ne tient pas compte de cela, ou si jamais il y a vote, et d'ailleurs s'il y a vote, il y a très peu de chances, honnêtement, que le traité ne soit pas voté, puisque seule l'Italie, la France et deux autres pays y sont opposés. Donc si ce traité continue à avancer, quand vous dites on est déterminé, ça veut dire jusqu'où? Ça veut dire que vous poursuivrez des blocages, des manifestations?
Oui, évidemment. D'abord parce que rien n'est perdu. Vous savez que pour que cet accord soit définitivement entériné, il faut que le co-législateur, c'est-à-dire le Parlement européen, donne aussi son avis, et ce ne sera que dans quelques mois. Donc si demain soir cet accord devait être voté, ce qui n'est pas encore acquis au moment où nous nous parlons, parce que plusieurs pays ont dit qu'ils étaient prêts à activer la minorité de blocage, vous l'avez indiqué, mais il restera ce combat des eurodéputés. Encore une fois, nous voulons convaincre que pour l'avenir du continent européen, faire respecter les règles qu'il a définies sur l'ensemble du territoire, c'est essentiel. J'ai entendu il y a quelques semaines, au moment du sujet sur Chine, un certain nombre d'acteurs industriels dire « on ne peut pas laisser rentrer en Europe des produits industriels qui ne respectent pas nos standards ». Eh bien, nous disons la même chose pour l'agriculture.
Pour vous, c'est la même problématique. Au fond, le Mercosur, comme la question du commerce avec la Chine, de ce qui désormais d'ailleurs est vécu et même exprimé par un certain nombre de ministres eux-mêmes, même comme une forme de guerre. Le ministre du Travail qui était à mon micro hier parlait d'une guerre commerciale avec la Chine. Est-ce que vous auriez aimé que l'on utilise les mêmes mots, la même énergie, la même opposition aujourd'hui vis-à-vis du Mercosur?
En tous les cas, nous avons envie que l'Europe et singulièrement la France réaffirme que ce continent, que cet esprit européen auquel nous sommes attachés, qui est le fruit de la dernière guerre, puisse être réaffirmé face à des continent ou à des grands pays qui se réarment. Je pense à la Chine, mais regardez ce que font les États-Unis avec Monsieur Trump depuis quelques mois. Regardez ce que fait la Russie, notamment avec la question alimentaire qui traverse tous les grands débats géopolitiques du moment. Il nous semble que l'Europe fait preuve d'une grande naïveté, comme elle l'a fait en son temps sur l'énergie, souvenez-vous, au moment de la guerre en Ukraine. Et c'est le moment de réaffirmer que l'agriculture, se nourrir, est une question essentielle de souveraineté et qu'au moment où les tensions sont très vives, se nourrir 3 fois par jour restera de toute façon un sujet central. Donc cessons cette naïveté, mobilisons-nous.
Vous avez échangé avec Emmanuel Macron, avec Sébastien Lecornu, ou vous allez échanger avec eux ?
Écoutez, j'ai rencontré le président de la République à son invitation il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. Je lui ai redit ça, je lui ai dit que pour nous, ça n'était pas un sujet sectoriel, mais bien un sujet de vision. J'ai d'ailleurs regretté que depuis maintenant plus de 4 ans, nous n'ayons pas de vision pour l'agriculture. Et c'est aussi ce qui interroge les agriculteurs sur le terrain. Que veut-on faire de l'agriculture française ? Et puis, évidemment, je lui ai dit que nous serions mobilisés. Quant au Premier ministre, j'ai eu un contact la semaine dernière et nous le verrons demain matin à son invitation à Matignon à 9h45.
Demain matin, vous avez donc rendez-vous avec le Premier ministre. Un mot encore sur cette question du Mercosur. Si toutefois il était voté, Dominique Schelcher, mon invité il y a 2 jours, le patron des magasins U, a pris l'engagement à mon micro de ne pas acheter de produits d'Amérique du Sud, même si le Mercosur le permettait. D'autres grandes distributions commencent à envisager de faire la même chose. Est-ce que pour vous, cette forme de solidarité vous paraît de bonne aloi ?
Écoutez, en tous les cas, moi je remercie Dominique Schelcher de cette position, mais vous savez, au-delà de ce comportement que je salue, c'est le Parlement qui s'est exprimé contre. Vous savez que cet accord, il a été coupé en deux, notamment sur la partie commerce, mais le Sénat hier, comme l'Assemblée nationale il y a quelques jours, ont dit très clairement non. Les parlementaires français, ceux qui représentent le peuple français, ont dit non, très clairement. Donc c'est aussi un vrai sujet démocratique, dont tous ceux qui, dans leur comportement, expliqueront que, encore une fois, nous restons un pays et un continent ouvert, mais que nous nous sommes fixés des règles parmi les plus exigeantes de la planète en termes de production agricole, eh bien nous voulons faire respecter ces règles. Je trouve que tous les comportements qui vont en ce sens-là sont assez saluer, mais j'attends surtout une réaction politique parce que c'est de là où ça vient. Je redis que la crise agricole, partout où elle se déploie, est la conclusion ou est la conséquence plus exactement d'un manque de vision, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit en France. Et tant qu'on n'aura pas comblé ce manque de vision et qu'on n'aura pas expliqué clairement et aux agriculteurs et aux Français ce qu'on veut faire de l'agriculture, on restera dans ce marasme et vous avez compris que pour nous, il n'en est pas question.
Vous venez de dire à Arnaud Rousseau qu'il y avait que c'était même un problème démocratique. Et au fond, certes, vous m'avez dit au début de cet entretien, non, mais la question de la division syndicale, c'est pas la question. C'est la question. En tout cas, ici, sur le terrain, en France, depuis quelques jours, on le sent bien, cette colère agricole, elle est aussi extrêmement clivée. Je recevais hier le patron des jeunes agriculteurs, qui est sur la même position que vous, au fond, sur la question de la dermatose, qui est plutôt dans le respect, en tout cas, du protocole sanitaire, ou dans la volonté de faire plutôt confiance aux scientifiques. Sauf que, sur le terrain, ce qui manifeste, c'est principalement la coordination rurale, la confédération paysanne, et le patron des jeunes agriculteurs, il se disait très inquiet du point de vue démocratique, parce qu'il disait, au fond, c'est exactement comme le reste du pays, nous sommes divisés, nous sommes clivés, et il disait même que c'était d'un côté l'extrême droite et de l'autre l'extrême gauche. Est-ce que, au fond, la colère agricole aujourd'hui n'est pas en train complètement de vous échapper, à vous la FNSEA ?
Non, mais encore une fois, vous savez, Apolline de Malherbe, les présidentielles vont arriver dans 1 an et demi, et nous, on fera en sorte que l'agriculture soit au cœur des discussions pour la présidentielle parce que c'est là que ça va se trancher. Ensuite, je l'ai redit depuis des mois, la FNSEA n'est pas un syndicat politique, elle porte une ambition pour l'agriculture. Comme vous, j'observe ce clivage sur le terrain. Et je vais vous dire, la question n'est pas est-ce que ça échappe à la FNSEA, aux jeunes agriculteurs, à la Confédération Paysanne ou à la Coordination Rurale. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture dans les années qui viennent. Et ensuite, chaque agriculteur, avec son bulletin de vote, comme n'importe quel Français, pourra se définir. Moi, je ne veux pas de récupération parce que ce sujet, il dépasse les clivages. Et je l'ai déjà dit, la dermatose n'est pas une maladie.
Je comprends parfaitement que vous ne vouliez pas de récupération, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de se faire face à vous et face à votre impuissance là-dessus.
Non, mais encore une fois, j'ai bien observé ce qui se passait sur le terrain avec la visite d'un certain nombre de politiques de tous bords. Écoutez, si les hommes et les femmes politiques de ce pays s'intéressent à l'agriculture, c'est tant mieux. J'observe ce que vous me décrivez, Apolline de Malherbe. Mais encore une fois, notre mission à nous n'est pas de servir la soupe, pardon, à tel ou tel parti politique. Notre mission à nous, c'est d'avoir une vision claire de l'agriculture qui porte l'ambition d'hommes et de femmes qui ont le goût d'entreprendre sur les territoires. C'est ça notre vision de l'agriculture.
Parfaitement, mais Arnaud Rousseau, ça a une question qui est la question de la conséquence, c'est que au fond, si ce soir, vous avez effectivement obtenu gain de cause, ce soir ou demain, on apprend que le Mercosur est gelé, voire même abandonné, aurez-vous, vous, la FNSEA, le pouvoir, l'autorité, j'allais dire, le respect des troupes qui font qu'ils se calment vraiment? C'est-à-dire, ma question est en réalité, qui représentez-vous?
Ah ben moi je représente les adhérents hein, qui ont élu sur le terrain.
Mais
des
c'est
représentants,
pas eux qui sont. C'est pas vos adhérents qui sont sur les routes ou les autoroutes ou les ronds-points depuis quelques jours.
Oui, enfin, il y en a aussi, pardon, Apolline de Malherbe, on a des gens qui sont en action partout, avec parfois des clivages très clairement sur le sujet de la dermatose. Mais encore une fois, je voudrais pas que la dermatose cache le reste des difficultés agricoles. Donc moi, pour ce qui est des autres syndicats, écoutez, ils donneront en tous les cas, ils donneront les consignes à leurs adhérents. Et puis après, si des agriculteurs qui ne se reconnaissent plus dans les syndicats, parce qu'il y en a aussi, veulent faire n'importe quoi, ils le feront. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes structurés, encadré avec des consignes. On a aussi du débat interne, Apolline de Malherbe. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'avoir une vision claire. Et je le redis, chacun s'encadrera. Vous savez, ces questions sur est-ce qu'on est débordé, est-ce qu'on tient, c'est des questions qui reviennent de manière normale et récurrente à chaque fois qu'il y a une action agricole. En tous les cas, nous, on continue à porter une vision claire. On est clair sur la science concernant la dermatose. On est clair sur l'ambition de production. On est clair sur l'ambition du goût d'entreprendre. On déplore de ne pas avoir de vision. On a besoin que l'Europe soit moins naïve. Et on a besoin que le chef de l'État nous dise clairement ce qu'il veut faire de l'agriculture. Et surtout, on a besoin de mobiliser les futurs candidats à la présidentielle pour que chacun nous dise ce qu'il entend faire de l'agriculture. Et enfin, les agriculteurs se définiront. C'est le principe démocratique et c'est ça qu'on poussera.
Et la question d'ailleurs, elle se pose, j'allais dire, pour tous les syndicats, y compris les syndicats de travailleurs. C'est la question que je pose aussi quand je reçois les patrons de la CGT, les patronnes en l'occurrence de la CGT ou de la CFDT. Un mot sur les fêtes de Noël. Est-ce que au moment où on se parle, vous vous dites malgré tout que vous espérez qu'une trêve soit respectée ou est-ce que vous n'empêcherez pas les blocages?
En tous les cas, je veux dire que Noël, dans le monde agricole, c'est une date importante. C'est la date de la convivialité, du repas de nos produits en famille. C'est aussi des valeurs auxquelles sont attachées le monde agricole, et donc évidemment on souhaite que ce soit le plus protégé possible, mais cette décision ne m'appartient pas, elle sera aussi très liée à ce qui va se passer demain, et puis je l'ai dit, il appartiendra ensuite à chaque département au plus près du terrain de décider s'il se mobilise pendant cette période ou là ou pas, mais vous savez, janvier arrivera vite, le salon de l'agriculture arrivera vite, et les problèmes ont besoin d'être réglés et pas simplement d'être évoqués, et c'est ce que nous souhaitons ardemment, donc on continuera évidemment à être mobilisés.
Il y aura des conséquences, y compris sur les législatives, parce que quand on tire le fil de votre agenda, là, effectivement, il y aura le salon de l'agriculture fin février, et puis en mars, il y aura les élections municipales. Pardon. Est-ce que pour vous, les municipales, ça se joue aussi maintenant sur le terrain?
Non, vous savez, les municipales, c'est une élection à part. Hein. Le maire, c'est peut-être encore celui qui tient le mieux le maillon démocratique. Les municipales, ce sont des problématiques très très locales. Mais je l'ai dit aussi, j'invite tous les agriculteurs ou agriculteurs retraités à s'engager dans ces élections parce que c'est celle du terrain, c'est celle de la connaissance, c'est celle de la compétence. Et je sais que les agriculteurs, qui sont aujourd'hui la classe socio-professionnelle la plus représentée dans les élections municipales, doivent continuer à s'engager. Je crois pas qu'il y ait de lien direct, même si la question alimentaire à travers les projets alimentaires territoriaux peut traverser les municipales. Je crois qu'il y a d'autres enjeux, mais en tous les cas, la question de la ruralité, la question de l'agriculture seront des questions de municipales, il y en a bien d'autres. Et moi j'invite aussi, encore une fois, les agriculteurs à s'engager. C'est important de continuer à porter ce que nous sommes sur les territoires essentiellement ruraux, vous l'avez compris.
Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct de Bruxelles. On l'a bien compris, manifestation aujourd'hui contre le Mercosur, mais vous nous l'annoncez aussi, vous avez rendez-vous avec le Premier ministre demain matin. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA depuis Bruxelles. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, Arnaud Rousseau, était en duplex avec nous donc de Bruxelles. Tiens, il est encore là. Pardonnez-moi, monsieur Rousseau, priorité au direct. Tiens, on retrouve tout de suite Annie Genevard, la ministre.
Bonjour à tous. En tant que ministre de l'Agriculture, face à cette situation d'urgence, j'ai décidé d'agir avec la plus grande rapidité.
Ah oui, c'est là.
J'ai donc décidé de procéder à l'accélération, de la vaccination.
Non mais attendez Madame Genevard, pardon, on dirait que vous faites une dictée là.
Oui, pardonnez-moi, oui, c'est la professeure de français qui reprend le dessus. C'est oui, ça? Parce qu'à la base je suis professeure de français, c'est vous dire si je m'y connais en agriculture.
Ah oui,
bref,
oui.
Face à l'urgence, nous allons élargir les personnes habilitées donc à vacciner. Donc seront réquisitionnés les vétérinaires militaires.
Oui.
Si, si, ça existe, je ne sais pas, il vaccine, je ne sais pas, les tanks peut-être.
Peut-être là, vous avez été surprise.
Oui, 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 peut-être, je ne sais pas, quand un adjudant est traité de gros bœuf, peut-être, je ne sais pas. Bon, bref, donc je reprends. Donc nous habiliterons également les vétérinaires, après les vétérinaires militaires, les vétérinaires de l'aérospatial.
Ah,
je découvre. Les vétérinaires de la caisse d'allocation familiale. Oui, mais on a besoin de tout le monde.
Oui.
Les vétérinaires libéraux en activité, bien sûr, bien évidemment. Les vétérinaires retraités. Les vétérinaires décédés. Les femmes de vétérinaires. Les enfants de vétérinaires de plus de 3 ans. Les élèves étudiants vétérinaires. Les étudiants qui ont raté leur diplôme de vétérinaire. Oui, bah écoutez, on fait les fins de fond de tiroir. Hein. Nous avons tout de même 750 000 bêtes à vacciner, Madame de Malherbe.
Ah oui, avant Noël, mais alors comment vous allez faire? Bon, sinon, il y a quand même eu un peu vos premières visites de terrain au contact des agriculteurs. Quelles sont vos impressions?
Alors, j'ai eu la chance d'aller sur le terrain, en Haute-Garonne. Et ma première impression en voyant tous ces agriculteurs, c'est vrai que j'étais contente de rentrer.
Merci Madame Genevard. Jérôme Bail est également avec nous ce matin. Bonjour. La crise sanitaire actuelle aurait pour conséquence une chute de la production de viande.
Oui, effectivement, Madame de Malherbe.
Vous êtes sur la 64 là, en direct. Hein.
Oui, on est en direct avec les ultras de la 64. C'est vrai que ça a une autre conséquence, l'abattage. S'il y a plus de troupeaux, plus de cheptels, ça a une autre conséquence grave. Si on met à abattre les troupeaux, tous les troupeaux d'animaux, plus de troupeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire la conséquence immédiate, c'est plus de lisier.
Oui.
S'il y a plus de lisier, qu'est-ce qu'on va déverser pour faire pression sur les préfectures? On a besoin de lisier, nous.
Bien
donc, sinon, on va se retrouver aussi désarmés que d'autres professions comme les coiffeurs ou les marchands de journaux. Parce que c'est des professions qui sont en état de faiblesse. C'est des professions qui ne manifestent jamais parce que c'est évidemment, quand comme seule arme, t'as juste un peigne ou un exemplaire du journal de Mickey. Le gouvernement, pardon, non. Mais il ne t'écoute pas, le gouvernement.
Bon, alors de plus en plus d'agriculteurs jettent l'éponge. Hein. Ils parlent d'une reconversion. Vous l'avez jamais envisagé, vous, Jérôme Bail?
Non, moi je tiens à mon métier. J'aime trop la nature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos bêtes, ce sont nos seules bêtes, les cheptels et les exploitations, on a du mal à vivre. Donc je vais peut-être effectivement me reconvertir, mais dans l'agriculture, parce que c'est ma vie. C'est comme ça. J'ai un cousin qui habite à Marseille. Il n'a pas grand-chose. Vous voyez, il a un champ. Et il laisse pousser de l'herbe, ensuite il va à l'herbe dans les rues de Marseille, en circuit court, et il me dit qu'il gagne très bien sa vie, alors c'est vrai que ça me fait un peu réfléchir.
Je comprends Jérôme Bail, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Aujourd'hui on retrouve notre ami Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane Bern.
Oh oui, c'est le grand écart. Oh oui, bonjour ma chère Apolline. Oh, j'adore cette épidémie de dermatose nodulaire, rien que le nom, dermatose nodulaire, contagieuse en plus, oh, c'est formidable. Mais oui, grâce à cette maladie qui
C'est cette maladie qui donne plein d'horribles pustules et autres boutons sur la peau. J'ai l'impression de revivre les grandes heures du Moyen-Âge au temps de la lèpre et de la peste bubonique. C'est formidable. Et en plus vient s'ajouter là-dessus une révolte de la paysannerie. C'est formidable. Mais oui, on est en train de vivre une expérience immersive de 8 siècles en arrière. Oh non, 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 non. C'est, je dis merci les gueux pour ce beau cadeau de Noël.
C'est vrai que c'est émouvant, c'est magnifique.
Allez, ce que je vous propose, c'est de partir pour les titres. Allez, on est des fous.
C'est pas de
pas titre de noblesse, non, les titres d'actualité.
C'est dommage.
Oh, je suis drôle. Allez. Après la visite de Emmanuel Macron à Marseille, Emmanuel Macron annonce l'ouverture d'une nouvelle plateforme d'orientation scolaire dédiée aux élèves marseillais. Elle s'appellera Parcoursup. Et puis l'actualité, vous le savez, nous en avons parlé. On ne parle que de ça. C'est toujours l'abattage des troupeaux contaminés par la dermatose nodulaire bovine. On va en parler avec le président du Sénat. Et je vous laisse la main à vos Pauline. Vous
oui.
êtes la plus belle intervieweuse du PAF.
Merci Stéphane Bern. En effet, peu de gens le savent, mais vous êtes vétérinaire, Gérard Larcher. Gérard Larcher, vous avez démarré de la vie en soi.
C'est quoi la question? Alors, c'est le vétérinaire qui vous parle. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication à la consommation humaine de ces vaches. On peut consommer une vache atteinte de dermatose, même s'il y a des boutons, des pustules et des furoncles. Non. Mais avant, bien sûr, il y a des précautions à prendre. Il faut éplucher la vache. Une vache, ça se mange pas avec la peau. Ah, c'est comme une pomme. Faut éplucher, ensuite, vous pouvez manger la vache. Mais bien sûr, autre précaution, il ne faut pas oublier de recracher les os.
C'est merveilleux. Merci beaucoup, monsieur Larcher. Donc, Jean Lassalle est également avec nous. Oh là. Bonjour, Jean Lassalle.
Bonjour, madame, bonjour, monsieur Villiers, monsieur Demain, donc tout ça, monsieur Montrain, avec monsieur Marchal. Et j'apporte mon soutien à mes collègues agriculteurs. Je condamne ceux qui s'attaquent aux vétérinaires. Parce que vous savez, la campagne est un désert médical. Et donc, nous avons besoin de médecins de famille, mais nous n'en avons pas. Donc, nous avons le vétérinaire de famille, que je salue. C'est lui qui a aidé ma femme à mettre bas. C'est lui qui a sauvé mes enfants en les vaccinant contre la tremblante du mouton. Et on voudrait attenter aujourd'hui à la vie de notre veto. Eh bien, je mets mon veto à ceux qui veulent attenter la vie des veto. Voilà. Vous voyez que j'ai le sens de la formule. C'est mon côté Raymond Devos. Mais je ne peux pas vous quitter sans vous faire une petite blagounette. Parce que je sens M. Marchal friand.
Ah ben, je sais, j'attends.
Est-ce que vous connaissez à quoi on reconnaît une vache médecin? À sa bouse blanche.
Oh. Et oui, je suis le Roland Magdan des campagnes, le Albert Dupont-Aignan. Merci, c'est tout pour moi.
Merci Nicolas Canteloup. Dans un instant, les GG, les grandes gueules, justement, le blocage des agriculteurs. Est-ce qu'on doit, pour les agriculteurs, leur dire, allez, maintenant, basta, il y a les vacances qui arrivent. Levez les barrages. À tout de suite avec les GG au 32-16.